الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. إن شاء الله تعالى on va essayer de finir cette conférence qu'Allah nous aide à la finir. Et à la fin, il y aura la série de, une série de questions. Alors, on en était arrivé dans cette conférence du mal que les sorciers provoquaient dans la société. فأضرار الساحر في المجتمع كثيرة جدا. أولا، فإنه يورث العداوة والبغضاء والحقد بين الأفراد والمجتمع. La première des choses, on va essayer de faire un peu français et arabe. La première des choses, le premier problème que provoque le sahir ou le sihr, la sorcellerie, dans la société, c'est qu'il met la haine et la colère entre les gens. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a dit. On a dit que celui qui fait un sortilège à une personne, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que cette personne-là va le détester, forcément. Et qu'il va avoir des guerres, et qu'il va avoir donc des guerres, que ce soit de famille ou que ce soit des choses, yani, des querelles, que des fois, des querelles qui vont très très loin. La deuxième des choses, الشيء الثاني, أنه يدعو إلى الانتقام بكل وسيلة، لا سيما إذا عرف المسحور من سحره، وبالتالي يكثر القتل بين أفراد هذا المجتمع. La deuxième chose que provoque la sorcellerie, c'est qu'elle appelle, cette sorcellerie-là, elle appelle à la vengeance par tous les moyens. Par tous les moyens, surtout lorsque la personne ensorcelée sait qui l'a ensorcelée. Ça. Si toi, par exemple, ton père ou ta mère, il y a un téléphone, là, je crois que ça va poser un peu des problèmes. Ton père ou ta mère a été ensorcelé, toi tu aimes ton père, toi tu aimes ta mère, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas vouloir te venger par tous les moyens. Et il est possible que ça soit même des moyens qui ne sont pas légiférés dans l'islam. Et que, qu'est-ce que tu vas, il est possible que ça va jusqu'à tuer la personne et commettre des homicides, et tout cela, il faut éviter donc de les faire, et que ça fait partie aussi surtout des problèmes que la magie ou la sorcellerie pose dans la société. الشيء الثالث, la troisième chose, فالسحر يمسخ المجتمع الطيب إلى مجتمع فاسد. Beaucoup de sociétés, beaucoup de pays, c'était des pays où il y avait, alhamdulillah, beaucoup de bien et beaucoup de khayr et beaucoup d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le sihr est rentré et qu'il n'a pas assez été puni, ce mujtama', cette société qui était bonne, est devenue une société corrompue, est devenue un mujtama' fasid. Ça fait partie aussi des mauvaises choses que peut causer le sihr, les problèmes du sihr. Également, الشيء الرابع, quatrième chose, السحر يضعف أو يضعف, نعم يضعف الأمة في توكلها على الله وكمال اليقين بحيث يكثر الاستعانة بهؤلاء الشياطين. Qu'est-ce qui se passe? La quatrième chose, les savants ont dit que ça affaiblit la communauté musulmane. La répansion de ce mal-là affaiblit la communauté musulmane dans quoi? Dans son tawakkul ala Allah, dans sa confiance, et également dans sa certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les gens vont aller sans cesse chez ces sorciers. Et de là, il va y avoir quoi? Il va y avoir une espèce de confiance envers ces sorciers qui en réalité, hein, il faut avoir confiance en qui? En Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le pire de tout cela, hein, le pire de tout cela, c'est السحر يعني كسيكوز يكثر الكفر والشرك بذلك يعني إذا كثر السحر كثر الكفر إذا كثر السحر في المجتمع كثر الكفر يعني la cinquième chose que les savants disent, ils disent que les gens, plus ils vont commettre de la sorcellerie, plus ils vont commettre de la mécréance, et plus ils vont commettre de la mécréance, plus la société va devenir mécréante. Vous avez compris? Donc regardez, hier on a parlé juste des problèmes au niveau du Bayn al-Afrat, c'est-à-dire au niveau des personnes. Là, regardez les grands problèmes que viennent dans la société où le sihr est beaucoup pratiqué. إذا تبين ذلك وإذا علمنا ما هو موقف الإسلام حتى من الأديان الأخرى من السحر ومن تعلم السحر فما هي أو ما هو نعم من هو الساحر وما هي علامة السحر ولا un des éléments les plus principaux de cette conférence c'est que si on a connu auparavant de tout le discours qu'on a fait depuis hier, si on a connu le statut de l'islam concernant le sihr, et si on a connu même le statut du sihr, même vis-à-vis de qui? Même vis-à-vis des autres sociétés et comment ils le punissaient, hein, qui est maintenant alors le sihr et quels sont les signes pour reconnaître le sihr? Et ça, c'est une question qu'on m'a posée depuis hier, et que j'ai dit, ça va arriver. Parce qu'il y a des choses avant, hein, qu'on a parlé. Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler des alamat, c'est-à-dire des signes, comment reconnaître le sahir. As-sahiru, kafir, mashallah. Ça, c'est sahir, kafir, ça, au moins, ça reste bien dans la tête, mashallah. Alors, premièrement, تراه من الحالة التي يعيش عليها يعني الساحر تراه من الحالة التي يعيش عليها من المسكن ومن النعم ومن وجهه وتراه كذلك في لباسه وفي الرائحة الكارهة التي تخرج منه الساحر tu le reconnais avec ces points suivants. La première des choses, comme on a dit, c'est son visage. As-sahir, ça se voit rien qu'à son visage. Vous voyez les gens qui pratiquent la sunnah, mashallah, tu les vois avec des belles barres, hein, tu vois un visage, hein, rayonnant, qui sort, sahlala, tu vois, tu dis, ah, hada, c'est un tayyib, jamais il va me faire quelque chose. Sah. Eh ben, prends le contraire, c'est le sahir. Vous comprenez? Tu prends le contraire, le visage du sahir, c'est un visage, a'oudhu billah, un visage ténébreux. Un visage noir, un visage de quelqu'un de méchant. Hein, de voir ces gens-là. Tu le reconnais aussi avec son libès. Alors soit il a un libès, c'est-à-dire son vêtement. Tu le reconnais même avec la manière qu'il s'habille. Alors soit tu le vois, il s'habille vraiment très bizarre. Vraiment d'un habit vraiment très bizarre avec des couleurs, des choses bizarres. Ou alors, son habit il est souvent déchiré, et souvent pourri, car il ne se lave pas. Il se lave pas, ça on va en parler aussi, il se lave pas. Et tu vois aussi, souvent, hein, que donc il est crasseux. Voilà, pour bien utiliser les termes, c'est qu'il est crasseux, il aime la crasse. Et tu le sens même à son odeur. Le sahir, tu le sens même à son odeur. Tandis que le raqi, quelqu'un qui fait le raqi, tu sens une bonne odeur, machallah, tu vois un beau visage. Hein, tu vois qu'il va t'apporter du khir, tu vois, avec un khamis, il est blanc, mashallah. Hein? Mais le sahir, c'est tout le contraire. Le sahir, même son vêtement, souvent, il est sombre. Ou alors, c'est des couleurs fluorescentes. Vraiment un truc agile. Et tu le reconnais, comme on a dit, avec son odeur. Son odeur, elle sent vraiment mauvais. Et il aime les odeurs mauvaises. Ça aussi, c'est un signe. Il aime les odeurs mauvaises. Et j'en connaissais un, particulièrement, qui utilisait les odeurs mauvaises, c'était l'odeur de l'urine. Je ne vais pas dire dans quel pays, de quel pays il est originaire, hein, parce que ça risque de faire des problèmes. Alors, il est, comment dire, naam, il sentait, il y avait une odeur d'urine chez lui. Il y avait une odeur d'urine chez lui. وَكَانَ يُبَخِّرْ بَيْتَهُ بِهَذِهِ الرَّائِحَةِ Hein, et il mettait ça comme encens dans sa maison. Une odeur puante. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Parce que الشياطين, parce que les diables aiment les odeurs خبيثة. أَيْنَ مَسْكَنَ الشَّيَاطِينَ Où c'est qu'habitent les diables? Où? Qu'est-ce que vous dites quand vous rentrez dans les toilettes? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wa al-khaba'ith. Donc, مَسْكَنَ الشَّيَاطِينَ أَيْنَ هِيَ C'est dans les toilettes. Alors, en résumé, la maison du sahir, baytu sahir, il lam yakun hammaman fahuwa qaribun minhu. Vous avez compris ça? La maison du sahir, si c'est pas des toilettes, eh ben c'est proche des toilettes. Si c'est pas des toilettes, c'est proche des toilettes. Tellement il est sale, l'endroit. Et tu reconnaîtras aussi avec des traces de sang, ou des traces de gras, de liquide par terre, etc., etc. Tout ça, ça prouve que c'est une maison de sahir et que la personne, c'est un sahir. Deuxièmement, la chose, الشيء الثاني, تراه كذلك أي الساحر يطلب اسم المريض واسم أمه ونعم يفعلون ذلك لماذا؟ ليشكك في الأب يطلب اسم الأم ليشكك في الأب. Alors, la deuxième chose que tu reconnais le sahir, il vient et il demande toujours, ou dans 99% des cas, il demande le nom du mari. C'est quoi ton nom? Tout de suite. Ou c'est quoi le nom du mari? De la personne qui est malade. Et le nom de la mère. Et pourquoi il demande le nom de la mère? Afin qu'il mette le doute sur le père. Il dit, ta mère, c'est sûr que c'est ta mère, mais ton père, c'est pas sûr. Regardez ce qu'il fait. Et la personne qui va chez le sahir, il a un doute. Il ressort avec le doute si son père, c'est son père. Regardez le mal qu'il fait. Ça veut dire que si une personne va chez un sahir aujourd'hui, il est possible qu'il sorte et qu'il lui dise, ah, peut-être que mon père, c'est pas mon père. Regardez le mal qu'il fait. Donc, hein, il demande le nom de la mère ou le nom du malade. Su'ila samahatu Sheikh ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz an fi'atin min an-nas yu'alijuna bit-tibb ash-sha'bi 'ala hasab kalamihim wa yas'aluna 'an al-ismi wa ismi al-ummi wa yatlubuna aw na'am wa yutalibuna bil-muraja'ati bil-ghad aw ghadan wa 'inda muraja'atihim يقال لهم إنك مصاب بكذا ويقول أحدهم إنه يستعمل كلام الله في العلاج فقال رحمه الله تعالى من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي علم المغيبات فلا يجوز العلاج عنده كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس من أتى عرافا فسألوا عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. شيخ ابن باز, يعني la preuve de ce qu'on vient de avancer, hein, c'est une fatwa que Cheikh Abdul Aziz rahimahullah ibn Baz, il a été questionné, je vous résume la question, il a été questionné sur un groupe de gens qu'on allait voir et qui prétendaient soigner les gens avec des plantes populaires. Et ces gens-là, non seulement ils faisaient ça avec les plantes, et c'est pour ça que je vous ai dit que, entre parenthèses, c'est pour ça que je vous ai dit que même celui qui fait le sahir, qui utilise les plantes, souvent, il utilise aussi les shayatins. Alors, ils ont posé la question sur ces gens-là, qui utilisaient les plantes, mais qui demandaient aussi le nom de la personne ou le nom de la mère de la personne. Vous avez compris? Le nom du malade ou le nom de sa mère. Et ensuite, il disait, reviens demain, on va te dire qu'est-ce que tu as. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a répondu à cela, et il a dit, celui qui fait cela, dans sa manière de soigner les gens, c'est un délil, c'est une preuve qu'il utilise les diables. Car il prétend connaître la science de l'invisible. Il n'est donc pas autorisé d'aller se soigner chez lui, comme il n'est pas autorisé d'aller chez lui, et comme il n'est pas autorisé de le questionner. Même la question. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit sur ce genre de gens, celui qui va chez un arraf, un devin ou un charlatan, فَيَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ مُجَرَّدْ سُؤَالٍ. Il lui pose juste la question, il pose la question à ce charlatan ou à ce devin. لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. Sa prière ne sera pas acceptée. Combien de temps? 40 minutes. Pourquoi ils ont dit 40 minutes? Parce que les Arabes, ils comptaient par le calendrier lunaire. Hein, et pour eux, les jours, c'était les nuits. C'est ce qu'ont dit les savants dans l'explication de ce hadith. Taï. La fatwa, si vous voulez la retrouver, vous la retrouvez dans sa compilation, à Cheikh Ibn Baz, le premier volume, et c'est la page 22. C'est ce que j'ai devant moi. Voilà, et c'est une partie de la fatwa. Taï. Une autre chose, shay'un akhar, yu'rafu bihi as-sihr. Une autre chose, comment reconnaître, le sihr? Yatlubu atharan min al-marid, ka sha'ratin aw qit'atin min malabisihi aw suratahu wa ghayr dhalika aw miftah al-bayt, fa hadha walau qara'a surat al-baqara hadha ar-rajul sahir. Waqad su'ilat al-lajnatu ad-da'imah عن إرسال ثوب أو قميص لبعض الناس يدعون المعرفة فقالت لا يجوز ذلك ويحرم الذهاب إليهم. الشيء آخر, l'autre chose qu'on peut savoir que la personne est un sahir, c'est qu'il demande une trace du mari aussi. Après le nom, on a dit quoi? Le nom de la mère, la trace du mari. C'est-à-dire qu'il va demander par exemple la chéchia. Il va demander le chapeau, un chapeau, il va demander un vêtement, il va demander une photo. Il va demander également n'importe quel habit. Il va demander les clés de la maison, les clés de la voiture. Al-Muhim, il va demander quelque chose qui vient de qui? De la personne malade. Et cette personne-là, lorsqu'il te demande une chose, sache que c'est un sahir. Ça, c'est un sahir. والساحر كافر ما شاء الله. نعم. Donc il va demander quelque chose et cette personne là, ce sahir, même si il lit sourate al-Baqara devant toi, c'est un sahir. À partir du moment où il demande une photo ou une trace de la personne, à partir de ce moment là, il est considéré comme quoi? Il est considéré comme sorcier, comme sahir. D'accord? Même si il lit sourate al-Baqara, sache que si il lit sourate al-Baqara, c'est pour s'en moquer. Et une fois qu'il s'est moqué de Sourate al-Baqara, il va avoir un pacte avec des diables. Et une fois qu'il va avoir le pacte avec des diables, il aura ce qu'il veut de eux. Et une fois qu'il aura ce qu'il veut de eux, il aura ce qu'il veut, entre guillemets, toujours bi'idnillahi rabbil alamin, de toi. Ou de la personne. Vous avez compris? Souvent, tu les vois, ils lisent le Coran, et ensuite ils disent des mots, juste après. Ils font des petits bruits. Et c'est pour se moquer du Coran. Alors crois pas que ça y est, même s'il a une barbe, et tu le vois qu'il fait des choses, il lit le Coran, si il a les signes que je viens de te dire, c'est un sahir. Au sahiru kafir. La preuve de ce que je viens d'avancer, c'est les savants, la fatwa des savants du comité permanent. C'est la fatwa 9807. Et c'est la page 160 de ce volume-là. Et ils ont donc expliqué, le comité permanent, que la personne qui envoie, alors ils ont posé la question, ils ont dit, si une personne envoie ses vêtements, ou d'autres choses à d'autres gens, et qu'il prétendent, ces gens-là, qu'ils prétendent qu'ils connaissent, qu'ils ont la science de savoir si la personne elle est possédée ou pas. La communauté permanente a répondu qu'il était interdit d'aller voir ces gens-là et quoi, et que cette pratique-là était interdite. Ça veut dire que si cette pratique elle est interdite et que le fait d'aller les voir c'est interdit, ça prouve quoi? Ça prouve que c'est des sahirs, ceux qui font ça. Ça c'est un défi. Oui. ترى كذلك الساحر يستخدم كلاما غير مفهوم بل مجهول وطلاسم وأشياء غريبة ومن كيدهم أنه لو قرأ القرآن ثم قال أنا تعبان ثم قال كلاما غير معروف هذا ساحر. طيب l'autre chose aussi on peut reconnaître le sahir avec laquelle on reconnaît le sorcier, c'est qu'il a des formules, il a des formules bizarres. Un peu comme il nous montrait là, quand il disait abracadabra, hein, il disait des paroles qu'on ne comprenait pas. Et bien ça existe. Les sahirs, ils ont des formules bizarres. Ils disent des mots vraiment bizarres. Et il fait des bruits d'animaux. Il fait même des bruits d'animaux, il utilise des paroles que personne ne peut comprendre. Ça c'est un sahir. Une tabée. Fais attention, ça prouve que c'est un sahir. Et il fait tout le temps ce genre de choses-là, ou alors il lit des talismans. Il a des petits livres comme ça, il les lit comme ça, et c'est des écritures très bizarres. Et il y a lui qui les comprend, et il les lit comme ça, devant le malade. Ça, c'est un sahir. Ça, c'est un signe que c'est un sahir. كذلك تراه يعطي التمائم المتنوعة وصفاتها كالتالي. Alors, tu le vois aussi parmi les signes du sahir, c'est qu'il donne ce qu'on appelle al-kitab. Il donne des talismans. Il donne des talismans qui sont souvent attachés, ou souvent bien scotchés, ou souvent bien fermés dans une pochette en cuir. Et ensuite, il les donne aux malades. Il les donne aux malades. Et lorsque tu regardes ce qu'il y a dedans, hein, ou si un jour la personne tombe nez à nez face à ce genre de talisman, hein, tu vois dans ces talismans, أنه يحتوي على أرقام وحروف ومربعات وكلمات غير معروفة. Alors tu vois ce talisman là, hein, qui est composé de numéros, des numéros ou des lettres d'alphabet, ou alors des carrés, des triangles ou des ronds. Ça prouve que la personne, celle qui donne ce genre de talisman, c'est un sahir. Et il y a aussi un nom qui répète souvent, hein, c'est Hamchouch. C'est un nom d'un djinn, je sais pas pourquoi il l'aime bien, hein, ça doit être un grand diable, là. Hamchouch, hein, ou Shamharir aussi. Il met Shamharir et Hamchouch. Ces deux noms-là, dès que tu les vois, là, celui-là, c'est un grand sahir. C'est un grand sahir qui est un grand kafir, mashallah. Ensuite, mashallah, Allah m'a donné. طيب الشيء الثاني الذي تراه في هذه الطلاسم ترى مكتوبا عليها البسملة ثم كتابات غير معروفة استهزاء بالله جل وعلا أعوذ بالله من غضب. Alors qu'est-ce que tu vois aussi dans ces talismans? Je fais arabe français, inshallah. D'accord? Qu'est-ce que tu vois dans ces talismans écrits? Tu vois, Bismillahir Rahmanir Rahim. Tu dis, oh, bah, il a écrit du Coran, celui-là. Et juste en dessous, tu vois des traits. Des croix. Des dessins. Ces traits, ces dessins et ces écritures qui sont inconnues, c'est pourquoi? C'est pour se moquer de Bismillahir Rahmanir Rahim. Et celui qui se moque de Bismillahir Rahmanir Rahim, il se moque de quoi? Il se moque du Coran, il se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne, pourquoi ils font ça? Les sahara, comme on va l'expliquer, à chaque fois ils se moquent d'Allah, ou se moquent du prophète, alayhi salatu wassalam, ou se moquent de l'islam, pourquoi? Pour avoir des pactes avec les diables. C'est donnant un sahara. Hein. Lui, il faut qu'il ait quelque chose pour faire quelque chose. Il dit, tu veux faire ça? Tu veux avoir ces pouvoirs-là? Non, t'aide. ولكن افعل كذا. Mais fais ce qu'on t'ordonne de faire. Donne-nous une garantie que tu vas aller en enfer avec nous. C'est ça qu'elle nous dit. Donne-nous une garantie.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Allahumma inni as'aluka an la tabtaliya bihadhihi al-ashya. Qu'Allah ne nous éprouve pas avec ça, mes frères. Qu'Allah ne nous éprouve pas. Allah nous fait. C'est l'enfer à jamais. تراه كذلك يكتب عليها ما يسمون بنجم داود وبالعهود السليمانية السبعة. D'accord. يعني une autre chose que tu vois dans ces talismans, c'est نجم داود. Ce qui s'appelle نجم داود, c'est la croix, l'étoile, نعم, de داود. Ils disent que c'est l'étoile de David. Moi, c'est eux qui l'ont inventé cette étoile. Hein. Nous connaissons داود, c'est un prophète. Alors peut-être qu'ils veulent se moquer du prophète aussi. Ça, c'est pas impossible. Mais l'étoile de Daoud, à la Kulihad, l'étoile de Daoud, des prophètes ne sont pas venus avec des signes ou des choses, etc. En tout cas, ils l'appellent comment? Al-Najm Daoud. D'accord? Ou Al-Uhud al-Sulaymaniya, hein, que tu peux trouver dans ce talisman-là, c'est les Al-Uhud, les pactes ou les serments sulaymanites de Sulayman. Et on a dit, wa ma kafara Sulayman, walakin shayatin kafara. هؤلاء الذين هم الكفار هم الشياطين أما سليمان نبي معز نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب donc vous avez compris ça, inshallah, parmi donc ces signes comment tu peux reconnaître les sahara. ترى كذلك في هذه الأوراق ترى فيها مرسوما العقاريب والأفاعي. Tu vois dans ces feuilles-là, et ça je l'ai vu aussi de mes yeux, de quelqu'un de ma famille. Un jour, il m'a dit, cette personne-là de ma famille, il dit, Wallah, si j'aurais pas eu cette feuille, j'aurais eu l'accident. Une feuille qu'il a sauvée. Une feuille que moi, je peux me moucher avec, elle l'a sauvée. Hein, une feuille. Une feuille. Regardez comment ils vivent malheureusement, ces gens-là. Les gens qui sont attachés au sihr et à ses talismans. Ben, tu les vois, ils sont attachés à ça, comme si c'était Allah. Comme si c'était Allah qu'ils défendaient. Ça veut dire que s'il n'a pas cette feuille-là ou s'il n'a pas cette chose-là, hein, c'est ça le shirk, le malheur du shirk. Le mouchrik, celui qui fait du shirk, celui qui fait de l'association à Allah, là il a associé Allah ou pas? Il l'associe avec cette feuille, d'accord? En disant qu'elle a une force qui pourrait l'écarter de l'accident. Eh bien, regardez comment qu'il est malheureux. Ça veut dire que si un jour, au moins Allah, nous, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide là où on est, sahulala. Mais cette feuille-là, ça veut dire que s'il ne l'a pas, il va croire que si un jour il a un accident, ça revient à quoi? Ça revient à cette feuille-là. Et j'ai pleuré, moi, ce moment-là, quand j'ai vu cette feuille-là. Je lui ai dit, tu peux pas dire ça, quand même. Je lui ai dit, c'est grave. Je lui ai dit, cette feuille-là, tu dis qu'elle t'a défendu. Alors, c'était quoi? Il y avait écrit, Bismillahirrahmanirrahim. Regardez, c'est ici. Ensuite, il y avait des écritures. Et à la fin, il y avait un scorpion. Il était dessiné, mais trop bien dessiné. Hein. Ah, le gars, c'était un pro. Il a dessiné un scorpion comme ça. Ou alors, il dessine aussi des serpents. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, parce que moi je n'ai pas appris le cercle. Moi je dis juste les signes, hein, de quoi? Les signes que ça, c'est un cercle. Donc si tu vois des scorpions dessinés dans un papier, ainsi que des vipères, ça c'est un signe aussi que la personne qui utilise ça, c'est un cercle. Ou cercle, kafir. Ou ceux qui vont l'entendre, ils vont dire cercle, kafir. Cercle, kafir. Masha'Allah. Taïf. Également, min al-ashiya allati tu'arafu بها الساحر النفث في الماء وغيره بطلاسم غير مفهوم. Également, parmi les choses qu'on peut reconnaître le sahir, c'est que tu le vois, le sahir, tu le vois beaucoup souffler. Il souffle dans des nœuds, il souffle dans de l'eau. Pas du Coran, hein, il souffle comme ça. Tu vois, il crache comme ça directement. D'accord? Ça, également, en disant des formules et ensuite en crachant. Ça, cela prouve que quoi? Que c'est un sahir. Une des choses qui se pratique beaucoup, alors là je peux le dire, dans ce pays, en France, d'accord? Parce que la France générale, taïb, eh ben, ils pratiquent beaucoup quoi? Le pire des sahirs, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a parlé dans Surat al-Falaq, il a dit, min sharri nafathati fil 'uqad. Pourquoi Allah nous a cité que cette sorte de sihr? Est-ce que c'est le pire? Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit que c'est le pire des sihrs. C'est pour ça qu'Allah l'a cité dans le Coran. Alors c'est quoi un nafath fil 'uqad? C'est le fait de souffler dans des nœuds. Écrit ya'qad al-umur, afin de nouer toute forme d'affaire. D'accord? Quelqu'un qui va vouloir se marier, mais ce qu'il nous faut un aqd, hein, cette pauvre personne, si on lui fait un nœud et qu'on souffle dessus ces choses-là, il est possible qu'il va y avoir des problèmes. Il est possible, toujours. Donc alors, tu le vois avec des fils et des nœuds. Et ça, petite parenthèse, si j'ai pas l'occasion d'en reparler, il y a certains savants qui disent que si tu le trouves et tu trouves le nœud, tu défais le nœud, ou alors tu le coupes. Avec un ciseau, c'est difficile. D'accord, ça, on va en parler. Comment rendre nul le sihr? Taïf. Donc, ce sihr-là, tu le vois énormément répandu en France. Les nœuds. Des talismans ou des fils avec des nœuds. Il y en a même, qu'on a connu, des gens qui vomissaient des fils avec des nœuds. Ou des cheveux avec des nœuds. Je sais pas comment ils faisaient, mais ils vomissaient donc des fils ou des cheveux avec des nœuds. Et ça prouve que la personne s'est fait ensorceler. Et il y a aussi une chose qu'ils utilisent. Donc, ça, comme on a dit, c'était une des pires sorcelleries et qu'elle était beaucoup utilisée en France. Il y a aussi une chose qu'utilisent من الأشياء التي يستعملها الساحر أنه يطلق البخور لاستحضار الشياطين ومن هناك تسمع أصوات غريبة كصوت أجنحة أو طرق باب أو غير ذلك. Parmi les choses qu'utilise le sahir, hein, ou les choses parmi lesquelles on peut reconnaître le sahir, c'est qu'il vient avec des encens qui sentent une mauvaise odeur, vraiment des odeurs insupportables. Et c'est des encens qui font des bruits aussi. Ils font des bruits, ils mettent une espèce de pierre dessus et ça éclate et ça fait beaucoup de fumée. D'accord? Et ça, il utilise ces encens-là pour faire venir les diables, pour faire venir ses soldats à lui. D'accord? Et ensuite, tu entends dans la ghurfa là où il est, dans la maison là où il est, tu entends des bruits de porte. T'entends des bruits de porte, hein? Ça n'est pas un, ça vous inquiétez pas. Ils viennent pas dans la mosquée, alhamdoulilah. Hein? T'entends des bruits de porte, hein? Et t'entends aussi des aswas de ejniha, c'est-à-dire des bruits d'ailes qui volent. T'entends? Comme ça. T'entends ça chez lui, je sais. Alors la personne qui est ignorante, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, c'est un miracle. Ça? Il le suit dans son mal. Donc t'entends des bruits bizarres. L'entente de bruit bizarre chez le sahir, cela aussi est une preuve que c'est un sahir. Alors, نعم كذلك من الأشياء التي تراها عند الساحر أنه يذهب هذا الساحر إلى غرف مظلمة لأن الشياطين لا تحب النور وتحس بجوء ثقيل جدا وكذلك ترى ذلك من حضارة المكان. نعم. Alors, parmi les choses également qui prouvent que c'est un sorcier, c'est que tu vois le sahir quand il est chez lui et quand ses clients viennent chez lui, tu le vois, il se lève et il va souvent vers des chambres qui sont toutes noires, sombres. Et c'est là qu'il prend ses doyouf, ses invités, qui sont les diables. Hein. Ils viennent chez lui, et il est obligé de fermer les sorts et de rendre la rofa, c'est-à-dire la chambre, il est obligé de la rendre toute sombre. Parce que les shayatin, parce que les diables, n'aiment pas, quoi, la lumière. Naam, shayatin natuhib. Natuhib al-nur. Shayatin n'aiment pas la lumière. Et, tu vois là, de temps en temps, le sahir, quand il veut vraiment sorceller la personne, il rentre la personne avec lui dans cette pièce, dans le noir. Alors, il peut se passer des choses graves. Hein, par exemple, si c'est des femmes, malheureusement, ces gens-là aiment le mal. Donc vous savez, celui qui aime le mal, il peut faire du mal à nos sœurs ou à nos mères, hein, qu'Allah nous en protège. Mais surtout, la chose qu'ils voient tous, c'est quoi? C'est deux lumières rouges, comme deux yeux, avec des ombres noires. Ça, c'est les abalis. Ça, c'est les shayatin. C'est les diables qui viennent. ils viennent là à ce moment-là. Quand une personne, il est parti chez quelqu'un, qu'elle avait des ombres noires avec des yeux rouges, ça c'est qu'elle a vu des djinns. Et que la personne chez qui elle a été, c'est un sahir. Et il y a une histoire comme ça avec une personne que je connais. Il m'a dit, moi ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait ça, il m'a fait rentrer. Il m'a dit, la personne, il m'a dit, ils m'ont fait rentrer dans une ghurfa. Je suis rentré dans cette ghurfa et j'ai senti une atmosphère lourde, lourde, lourde. La température, on était en hiver, elle est montée peut-être à 40. Il faisait chaud dans la ghurfa, j'étais presque étouffé, il m'a dit. Mais après, je suis sorti, je me suis senti mieux. Mais yani, l'atmosphère lourde qui règne dans cette ghurfa, c'est quoi? Qui règne dans cette chambre, parce que moi je mélange l'arabe et le français, hein, qui règne dans cette chambre, c'est quoi? C'est shayatin, la présence des diables. Naam. Et cette personne-là, lorsqu'elle a été chez lui, elle a vu une table basse, elle m'a dit, mais qui était en sang. Elle m'a dit, quand j'étais chez lui, il y avait à peu près une taille de 30 voire 50 cm, c'est que du sang comme ça qui a coagulé. Du sang comme ça, bref, qui avait coagulé et qui était devant cette personne-là. Alors tu vois beaucoup de sang chez le sahir. C'est un bon boucher le sahir. C'est un très bon boucher, hein, puisque ces zabaïch, il faut qu'il les donne hein, à autre qu'Allah. Donc le sahir, tu le reconnais aussi avec du sang. Du sang chez lui, beaucoup de sang. Tayyib, qu'est-ce qu'il aime le sang? Adi. Min alamat al-sahir annahu yatlubu min al-marid ashiya kufriya. Parmi les signes que la personne, que cette personne-là est un sahir, c'est qu'il demande au malade des actes de mécréance. Kadhabhi li ghayrillah. Comme le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Alors il lui dit quoi? Il lui dit pas, alors lui, c'est pareil, hein, ils ont des techniques, ils ont des ruses. Il dit, quand tazbah, tu ne donnes pas de nom. Quand tu sacrifies, tu ne donnes pas de nom. Tazbah et tu jettes. Hein, les savants, ils ont dit que ce qui a été sacrifié sans le nom d'Allah, il y en a qui sont rentrés dans ce verset-là, les sacrifices où tu aurais même oublié le nom d'Allah dessus. Imaginez-vous. Même, il y a des savants qui voient que même que si tu oublies le nom d'Allah dessus, hein, que tu ne le manges pas, cette chose-là. Bon, Rajah, Inch'Allah, si c'est un musulman qui l'a fait, hein, et qu'il a oublié juste le nom, que cette dhabiha, Inch'Allah ta'ala, elle est autorisée de la manger. Mais imaginez-vous, certains savants, ils ont été jusqu'à dire que si tu as oublié de dire le nom d'Allah dessus, la bête, eh ben, tu la manges ou tu la manges pas. Il disait ces savants-là que tu la mangeais pas. Alors il demande aux malades, aux patients, il leur demande de quoi? Il leur demande de dégorger ou d'immoler, hein, sans donner de nom. Et il demande aussi des animaux bizarres. Il dit, ramène-moi un coq noir. Il dit, ramène-moi aussi un chat noir. Ça doit être dur aussi de égorger un chat. Je sais pas comment ça doit se passer. Il doit bien griffer le chat, hein, avant de mourir, le pauvre, hein. Il demande des chats noirs. Il demande, yani, des animaux bizarres aux patients qui doit les ramener et qui doit les égorger. Et ça, c'est une condition qu'il lui donne. Il dit, si tu veux que ça marche, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est pas lui qui fait que le couvre. Il n'y a pas que le sahir qui fait quoi? Qui fait l'acte de mécréance. Mais il y a aussi le patient. Il l'appelle à faire ça. D'accord? Ou alors aussi, il demande, naam. Ou alors, parmi les choses aussi, min alamat, yani, as-sahir, annahu yatlubu al-amwal al-kathira al-ta'ila, wa hada min akbari alamatihi, li'annaha dhukirat fil Qur'an, fi surat al-A'raf, qala Allahu ta'ala, wa ja'a as-saharatu fir'aun, qalu inna lana, إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وكذلك قال الله عز وجل في سورة الشعراء فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا من الغالبين إن كنا نحن الغالبين نعم. Donc Allah سبحانه وتعالى dans سورة يعني parmi les signes عفوا je reviens parmi les signes que la personne est un sahib si tu demandes énormément d'argent. Comme on a dit, il demande 10 000 euros, il demande 9 000 euros, ah, Mohim, il demande des grandes sommes d'argent. Et cela est un signe, pourquoi? Parce que Allah en a parlé de ce signe-là, hein, en parlant des sorciers de Pharaon, qui sont devenus musulmans par la suite. Et dans Sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces sorciers qui ont dit qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Ils ont demandé à Pharaon, est-ce qu'ils auraient un salaire si c'était eux qui battaient Moussa dans la chose qu'ils allaient faire. Et également le verset 41 de sourate Ash-Shu'ara, la sourate des poètes. Alors pour sourate Al-A'raf, c'est le verset 113. Et pour le sourate Ash-Shu'ara, c'est le verset 41. C'est le verset 41. Donc là, ils ont posé la question, ils ont dit inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Cela prouve que celui qui demande un salaire, un grand salaire pour sa sorcellerie, cela prouve que quoi? Que c'est un sorcier. Na'am. كذلك من العلامات الخلوة بالنساء وقد يصل الأمر إلى الفاحشة. Parmi les signes également du sahir, c'est qu'il demande à rester tout seul avec la femme, s'il y a une femme. Et souvent, il demande de rester seul avec la femme. Et rester seul avec la femme, le hadith, il nous dit quoi? Il nous dit que le troisième, c'est qui? C'est Shaytan. Lui, c'est déjà un Shaytan. Et tu rajoutes un autre Shaytan. Deux Shaytan sur une femme. Et il se peut qu'il fasse des choses mauvaises. Regardez, hein, ce que peut faire, c'est Sahara. Hein. Ça, c'est un signe. Lorsqu'il dit, je veux rester tout seul avec lui. Il y avait une personne de ma famille, et qui ne savait pas, ce qui est Najah. Hein, ces gens-là, ils sont beaucoup ignorants, c'est pour ça qu'il faut leur enseigner. Elle lui a demandé, elle est partie chez ce genre de personne. Galat Rohan Chouf Talib. Elle a dit, je vais aller voir un Gazan ou un Talib. Personne de ma famille. Ah, c'est de ma famille, hein. Je suis algérien, c'est de ma famille. Taïb. Et ils sont partis, elle est partie, cette personne-là. Et elle a dit quoi? Elle a dit, هذاك الطالب طلب مني بأنني بأنه يمسني. هذاك الطالب هذاك اللي dit laisse-moi te toucher. Elle a dit, moi, dès que j'ai entendu ça, je me suis levé, je suis parti. Ça veut dire souvent, ils demandent de toucher la femme, etc. pour faire, pour appeler ses shahawat, hein, pour faire ses passions. Alors, c'est pour ça que je vous dis, Erwan, il n'y a pas que le kufr. ذنب الكفر سهل أمام هذه الأشياء يعني الزنا وهذه الأشياء c'est petit vis-à-vis de quoi vis-à-vis du kufr vis-à-vis de la mécréance. Mais si une personne a fait la mécréance, sache que tout ce qui est en dessous, il le fait tranquillement. Qu'Allah nous protège tous. كذلك من العلامات أنه يطلب فعل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كقتل الهدهد أو الضبع أو نحو ذلك. نعم. Parmi les signes de connaissance, c'est-à-dire de comment tu reconnais le sahir, c'est qu'il demande, au patient, le sahir, le sorcier demande au patient de tuer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de ne pas tuer. Par exemple, le prophète alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit ne tuez pas le hudhud, ne tuez pas la huppe, c'est un oiseau, la louette ou la huppe, hein? C'est la huppe, elle-même. Cet oiseau-là, hein, qui, sa tête toujours est faite comme ça, hein. Et ben, cet oiseau-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a ordonné la communauté musulmane de ne pas le tuer, comme c'est devenu dans un hadith sahih. Le sahih, il dit, va tuer un hudhud. Donc, il demande quoi? Il demande de faire le contraire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça prouve quoi aussi? Ça prouve la vérité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. S'il lui demande de khalaf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça prouve la vérité aussi de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il demande aussi de tuer la grenouille. Ils utilisent beaucoup ça. Il dit, va tuer des grenouilles. Tu tue tel grenouille. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a interdit de quoi? Il a interdit de tuer la grenouille. Alors lui, il lui demande de faire le contraire. Et en faisant le contraire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, il fait quoi? Une désobéissance. La désobéissance, c'est une chose mauvaise ou une chose bonne? Une chose mauvaise. Et cette chose mauvaise, c'est avec laquelle il se rapproche de ses diables, c'est-à-dire le sorcier. ومن الأشياء كذلك من العلامات أنه يستخدم الحبل وقياس. Alors, ça c'est une technique utilisée en France. Je répète encore une fois, en France. طيب, c'est une technique qui est utilisée, c'est quoi? C'est le fil. Tu vas chez le sahir, tu vas chez la personne qu'Allah nous protège. Hein. Mais bon, le patient va chez le sahir. Il prend un fil. Et il prend ce fil-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle, il le mesure. Il fait un espèce de machin, il le ressort. S'il est court, il dit, toi, t'as du rin. S'il est long, il dit, toi, t'as ceci, ou toi, t'as cela. Juste en faisant un geste avec les fils, comme ça, il dit, toi, t'as ça, ou t'as ça, ou t'as ça. Ça aussi, c'est quoi? C'est un sahr. Je donne toutes les alamates, incha'Allah, qu'on connaît. Aïe. ومن العلامات كذلك أنه يستخدم النجاسات كالبول والحيض فيعطي للرجل أو المرأة عن طريق فيعطيه الرجل أو المرأة عن طريق الشرب أو الأكل أو كتابة آيات من كتاب الله عز وجل بهذه النجاسات ومن هؤلاء السحرة من يطأ المصحف ويتغوط عليه لعنة الله ونحو ذلك من الأفعال الكفرية من أجل أن يرضي الشياطين. Parmi les signes du sahir, et là écoutez bien, et ça pour les âmes qui sont un peu sensibles, hein, la chose que je demanderais c'est qu'ils fassent dua contre ces gens-là, hein, car ils vont entendre des choses horribles là. Alors, ça c'est les plus grands, ça c'est les maîtres, les grands sahir. Qu'est-ce qu'ils font? يستخدمون النجاسات. Ils utilisent beaucoup les najasat. Les najasat, vous les connaissez, comme le sang, comme l'urine. Tout cela, c'est des najasat, c'est-à-dire des souillures. Alors, il utilise aussi le sang des règles et des menstrues. Et il écrit du Coran avec. Le sang des chiens, dammul kilab, yaktubu bihi al-Qur'an. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces choses-là et il demande au mari de quoi? De les boire. يدي بوا شرب هكذا يكرم هكذا هذا هو كرم تاع الساحر سي سا لا ضيافه لا كومون دير لا جينيروزيتي دو ساحر ها يا دي جون يت دون دو تي دي جون يدون دو قهوه يت دون دو سون يت دون دو لورين نعم الساحر يت دون دو سون يت دون دو لورين مي بير سي كيل اي باسي بار كوا بار ليكريتور دو قران اي تو دون ا بوا تي دي شرب هذا تي دي بوا سا ou mange ça, et tu vas être bien. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bel. Le pire encore. Il y en avait un, il ne comprenait rien sur lui. C'était un sahir. Il était fort. Il était très très fort. Quand il y avait un djinn, même, il sortait les djinns, mais il sortait avec des techniques de sahir. C'était un sahir. Alors, il désenvoûtait entre guillemets les gens. Et un jour, ces gens-là, ils ont dit, non, il est trop fort. Qu'est-ce qu'il fait pour être fort comme ça? Ils l'ont suivi. Il allait dans un cimetière, se mettre à côté d'un arbre, et qu'est-ce qu'il faisait? La personne, elle est venue derrière lui. Il se levait, cette personne-là, ce sahir, il urinait. Et lorsqu'il se rapprochait de cette personne-là et que le sahir était parti, il a voulu vérifier qu'est-ce qu'il y avait. Alors, il y avait le Coran, et il urinait dessus. Bal yataghawwat alayh. Il faisait aussi ses excréments. Ça, c'est le sahir. Ça, c'est ce diable, le sahir. Na'oudou billah. Et il y a aussi, donc, bon, c'est encore un parmi tant d'autres. Ils prennent aussi le Coran et ils le découpent par petits morceaux, le Coran. ويجعله في الحذاء. Il le met dans quoi? Il le met dans la chaussure. Il le prend comme semelle, le Coran. Et il marche dessus. Tout le temps. tout le temps il marche sur le Coran. Ça, il le fait pour les pactes avec lesquels il se rapproche des shayatins. C'est-à-dire, naam. C'est-à-dire qu'il fait ces bonnes actes-là pour se rapprocher de ces diables-là. Parmi les choses aussi que fait le sahir, c'est qu'il demande aux patients, de s'enfermer dans sa chambre pendant 40 jours. Et lui dit, tu fermes les stores et tu restes pendant 40 jours dans cet endroit-là, tu ne bouges pas. Et aussi, il lui demande de ne pas se laver s'il a une janaba. S'il a une janaba, c'est-à-dire s'il a les impuretés, ou qu'il doit faire les grandes ablutions, il lui dit quoi? Il lui dit, tu ne te laves pas, tu restes sale comme ça. Non, mais ça aussi, c'est un signe que c'est un sorcier. ومن الأشياء ومن العلامات أنه يطلب من المريض أن يدفن أشياء تحت الأرض أو يرش بعض المواد السائلة أو يضع بيضا فاسدا على أبواب المنازل وقد نفث هو بريقه الخبيث. Parmi les choses aussi qu'on reconnaît le sahir, c'est qu'il demande du patient qu'il lui donne des matières liquides, il lui dit, va faire comme ça sur la porte. Il lui donne une matière liquide, il lui dit, va l'arroser comme ça sur la porte, ou sur le seuil de la porte, afin que cette maison soit ensorcelée, pour qu'après il y ait le faouva dans cette maison, qu'après il y ait le vacarme. Hein? Ou alors, il lui demande quoi? Il lui dit, enterre cette chose-là. Il va lui dire, tiens, tu prends cette chose-là, tu vas l'enterrer. Et, ou alors, de casser des œufs pourris, il demande des œufs pourris, vers où? Il va les casser ou il les enterre dans des endroits un particulier, tout ça c'est des alamat, c'est-à-dire des signes que c'est un sahir. Et, na'am, min alamat al-sahir, kadhalika annahu yu'ti lil-marid awraqan yuhriquha ou yatabakhkhar biha. Kadhalika, yani, parmi les alamat de sahir, c'est qu'il demande au malade de prendre ces feuilles-là où il a écrit les talismans, ou alors qu'il les a écrits, j'ai lu de sa propre main le sahir. Il dit au patient, au malade, il lui dit, va les brûler. Et fait des encens avec. D'accord? Ça aussi, c'est une preuve que c'est un sahir. ومن العلامات كذلك أنه يخبر عن بعض المعلومات الحقيقية الواقعة في حياة المريض الخاصة. طيب, parmi les choses aussi, avec les choses reconnaître, يعني le sahir, c'est qu'il te donne des informations. Qui te donne des informations de ce qui t'est arrivé dans ta vie. Alors, tu te dis, toi, il t'est arrivé ça. Est-ce que quelqu'un, un raqi qui lit le Coran, il peut faire ça? C'est logique. Ça, il ne va pas derrière le ghaib, il ne va pas prétendre la science de l'invisible. Alors, lui, il dit, toi, il t'est arrivé ça. Et voilà, Inch'Allah ta'ala, ça, c'est, Inch'Allah, les alamat, hein. Les plus grands signes. فهذه أبرز العلامات التي تعرف بها الساحر أو المشعوذ من الكهنة. وإذا وجدت علامة واحدة من هذه العلامات في أحد المعالجين فأنت على خطر عظيم. Voilà mes frères, les grands signes pour reconnaître la personne si c'est un sahir ou s'en est pas. Mais sache, et il est là le hukm. Sache que si tu vas aller voir ces gens-là, quelle est la règle de l'islam lorsqu'une personne voit ces gens-là ou va visiter ces gens-là? Ma hukm al-dhahab ilayhi. Si tu trouves déjà un signe ou plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es parti chez un sahir. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. Le hadith il est dans Muslim. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit que celui qui va aller voir ce genre de gens, hein, les charlatans, ça, et il pose une question, hein, sur نعم, il pose une question en le questionnant sur quelque chose. Il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام que sa prière n'est pas accepté pendant combien de temps? D'accord. Et dans un autre hadith de Abu Huraira, qui est dans le musnad de l'imam Ahmed, il dit, alayhi salatu wassalam, man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul, فقد برئ مما أنزل الله بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Alors, il y a un autre hadith qui nous dit que celui qui va chez le sahir et qui croit ce que raconte le sahir, il a mécréanti en prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh l'Albani, ou alors Bari'a, c'est-à-dire il s'est désavoué de ce qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très très grave de croire ce que dit le sahir. Et Cheikh l'Albani, il rend authentique ce hadith-là dans Sahih al-Jami'. Hein, dans Sahih al-Jami' 5942. وبهذا يتبين حكم الذهاب الى الساحر والله اعلم. Et donc avec cela, on sait quelle est la règle de l'islam concernant les gens qui vont visiter ces sahara. ولابد للانسان ان يعلم حكم المنجم بين قوسين كذلك وعلى سبيل الزياده لانه قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. Alors là il y a un autre problème, c'est que nous on a parlé de quoi? Du sahir, d'accord. Maintenant quel est le hukm du munajjim? Le munajjim c'est quoi ya akhi al-karim? Le munajjim, astrologue, c'est ça, hein, ceux qui utilisent les étoiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit man iqtabasa 'ilman min an-nujum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans un hadith, celui qui prend, c'est ça, hein, ou qui apprend, hein, 'ilman min, hein, recherche, na'am, qui recherche 'ilman, na'am, min an-nujum, qui recherche la science de l'astrologie, na'am, hein, faqad yani iqtabasa shu'batan min as-sihr. Il a certes rechercher quoi? Il a certes recherché une branche de la sorcellerie. Zad ma zad. Et plus il l'a fait, plus il l'a fait, plus il a poussé sa recherche, plus il sera plus il sera dans la sorcellerie. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Bon, ce hadith nous prouve que le munajjim, l'astrologue, est un sahir. Wa sahir kafir wal munajjim. Kafir. Là, ça va pas ensemble, mais c'est un kafir. D'accord. Al-Hadith, il a été rapporté par Abu Daoud et il a été rendu authentique, hein, dans une bonne branche de transmission. ويستفاد من هذا الحديث أن المنجم ساحر فلا يجوز الذهاب إليه لأن هؤلاء كفروا فهم على نوع على كل نوع من الإعلام. نعم. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon de ce hadith? Puisqu'on a parlé du fait de partir chez qui? Chez les sahirs. On profite de ce hadith-là que la personne qui va visiter ses astrologues, et qui demande par rapport aux horoscopes, etc., leur situation, hein, etc., que ces personnes-là sont dans le même hukm, ils sont dans la même règle que celui qui va aller voir qui? Le sahir. D'accord, vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, puisque le hadith est une preuve. Le hukm, la règle qu'on en tire, c'est que celui qui l'écoute, son cas dans l'astrologie, c'est-à-dire celui qui écoute son horoscope tous les jours, celui-là, c'est comme s'il avait questionné un astrologue ou pas? C'est comme s'il avait questionné ou pas? Et qu'est-ce qui lui arrive, celui-là? On a dit, celui qui va aller voir un astrologue ou un sahir ou ce genre de personnes, 40 jours. Et s'il le croit, il l'a démenti. Vous avez vu les ahkam, comment ils viennent? Donc attention à écouter les horoscopes, qu'ils soient dans la télé, ou qu'ils soient dans la radio, ou qu'ils soient dans les journaux. Hein, tout cela, hein, est interdit dans l'islam, et vous avez vu, hein, la punition que peut encourir ces gens-là. Et vous savez également que les mois, le tarikh, c'est-à-dire le calendrier, c'est un calendrier qui est basé beaucoup sur l'horoscope. Car l'horoscope, en fait, il te dit de tel mois à tel mois, c'est ça qu'ils disent, hein, de tel mois à tel mois, tu es dans la balance. de tel mois, tu es dans le Verseau, etc. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que les jours de la semaine sont basés sur les planètes. Et qu'il y a un lien avec ça. Par exemple, lundi, ils ont dit que c'était la Lune. Mardi, ils ont dit Mars, etc. Mardi. Ça veut dire qu'il y a un lien entre cela et cela. Et donc, il faut faire très très attention, Yahya al-Muslim. Et c'est pour ça que les savants, ils ont dit qu'il fallait utiliser le calendrier lunaire, le calendrier musulman qui a commencé à l'année, à l'an 2, l'Hégire, comme vous connaissez tous, et que Omar ibn Khattab avait mis en place. Un autre élément de cette muhadara, de cette conférence, أن هناك شبهة تتكرر دائما مع هؤلاء الشياطين وهي أنهم يقولون أي القائمون بهذه الأعمال بأنهم يريدون الخير إلى آخر ما يقولون وهذا شيء عجيب فكيف يريد الخير وهو يأتي بالكفر والشرك أولا لكي يستجاب أو تستجاب هذه الأعمال ثم أين الخير إذا أراد تفريق فلان مع فلانة أو العكس وهل كان سلفنا الصالح يقربون هذه الوسائل لإتمام هذه الأعمال أو هذه الأغراض بل هذا الكلام نريد الخير هذا كلام باطل وتزيين من الشيطان لهذه الأعمال بل هو نفسه لا يعرف أن الخير من الشر في نفسه فكيف بغيره. Alors ça, c'est un autre élément de cette conférence, c'est qu'il y a une shubha, c'est-à-dire un doute, une ambiguïté que répètent ces gens-là, ces gens qui font le sihr, qui pratiquent le sihr, la sorcellerie. Il dit, nous en vérité on veut le bien, pour cette personne. Comment il peut vouloir le bien en séparant une personne de sa femme, ou le contraire, ça, ou le contraire, c'est-à-dire les lier, parce qu'il y a aussi des sihr de mahabba. C'est-à-dire, il y a des sihr où la personne va tomber complètement amoureuse de cette personne, comme on l'a déjà expliqué. Comment il peut dire qu'il aime le bien pour telle ou telle personne? Parce qu'il dit, non, nous, en vérité, on ne fait pas le mal. Nous, on fait le bien. Tu fais le bien. Ça veut dire que tu fais du kofr, tu es obligé de faire de la mécréance pour faire du sihr. Ça, on l'a vu. C'est vrai, c'est faux. Alors, comment il peut dire qu'il fait le bien? On peut dire qu'il fait le bien? Vous me suivez ou là, vous ne me suivez pas? Ça, c'est des gens qui disent ça. Ils disent, nous, on veut le bien. Entre Foulen et Foulen, on fait le bien. Mais en réalité, il ne fait pas le bien. Il fait le mal. Et également, est-ce que les musulmans d'auparavant, c'est-à-dire le prédécesseur, est-ce qu'ils s'approchaient, wahashahum, hein, qui sont loin de cela, est-ce qu'ils s'approchaient de ce genre d'œuvre, pour régler les problèmes? Là, on va même pas parler des sahaba ou des tabi'in, même des gens qui sont venus bien après. Est-ce qu'ils s'approchaient de ces choses-là? Là, pourquoi? Parce que il est obligé de passer par quoi? Par le kufr, par la mécréance pour faire une chose. Alors comment il va dire, moi je veux le bien pour cette personne? Et d'abord lui, est-ce qu'il connaît le bien lui? Lui il connaît le raïb, il connaît si c'est telle personne ou telle personne, ça va aller ensemble ou ça va pas aller ensemble. Il veut le bien ou il veut pas le bien. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc lui-même il connaît même pas le bien pour lui-même. Comment il va le connaître pour autrui? Pour les autres? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Alors qu'ils ne viennent pas nous raconter, hein, qu'ils ne viennent pas nous dire, non, mais nous, on fait ça pour le bien. On fait ça pour le bien, mais allez. Non, c'est ça. وننتقلوا أيضا إلى موضع آخر مهم وهو ما هي أنواع السحر وأقسامها وأكثرها استعمالا وأقلها وغير ذلك. طيب لا وفاس هنطخل موسي دولا محاضرة. Et cet élément-là, c'est aussi une question qu'on m'a répétée depuis hier. C'est quoi, hein, les différentes sortes de sihr? Les différentes sortes de sihr, et quels sont les sihr qui sont le plus utilisés, hein, dans les sociétés? عرفنا السحر سابقا وبأنه جامع أشياء كثيرة ومن ثم كان من الصعب أن نأتي بالتعريف المانع الجامع. On a vu que le sihr c'était un monde et que c'était vaste. Alors qu'il est difficile donc de quoi? De donner une définition ou de donner toutes sortes de sihr, on va dire tel sihr ou tel sihr, étant donné que c'est un monde vaste. فأنواع السحر كثيرة. Donc, les catégories de sihr, de sorcellerie, sont nombreuses. النوع الأول, la première sorte, وهو أكثره استعمالا, وهو السحر القائم على استعانة بالشياطين. نعم. Celui qui est plus utilisé comme sihr, c'est celui qui est fait à l'aide de quoi? À l'aide des diables. Alors, j'ai pas voulu parler du lien entre le diable, entre les diables, les shayatins, les djinns, et le sahir, le lien qu'il y avait entre les deux. J'ai pas voulu parler de ça, parce que c'est long, hein. Mais en gros, c'est des pactes solennels entre eux. Voilà, je te désobéis pas, je t'écouterai jusqu'à la fin de ma vie, même s'il faut mourir, il écrit ça avec du sang, avec son sang, etc. Bon, une chose à devenir. Mais celui qui est donc le plus répandu, c'est celui qui est fait à l'aide des diables. فألخص وأقول إن السحر يقوم بأمور عظام من أجل أن تخدمه الشياطين. Donc, je résume en disant que le sahir fait des choses très graves pour que, afin que les diables l'aident. منها أنه يتقرب بأنواع من العبادات بالذبح والصوم والصلاة وغير ذلك. Parmi ces choses-là, c'est que il adore directement ses compagnons, c'est-à-dire les diables. Il vient, il jeûne pour eux. Il immole pour eux, il sacrifie pour eux. Il fait des salats, il fait des soujouts pour eux. Et comme on l'a dit, il marche sur le mushaf, hein, sur le Coran, sur le mushaf, là où il y a le Coran. Na'am. Et il écrit également, hein, avec le avec le sang. Et la règle générale dans tout cela, c'est que le sihr, si vous voyez ces choses-là que je vais dire, inshallah, sachez que ça rentre dans une des catégories de sihr. Alors premièrement, hein, awwalan yu'athir, comme il dit Ibn Qayyim, yu'athiru maradan. Le sihr met des maladies, inconnues. D'accord? Il met dans le corps du malade des maladies inconnues. Il met également une lourdeur. C'est-à-dire la personne se sent très très lourde. Il met également, hein, des crises. La personne se met à faire des crises. كَذَلِكَ يُورِثُ يُؤَثِّرُ حُبًّا. Yani Ibn Qayyim nous dit qu'il est possible que la personne tombe dans l'amour fou pour une autre. Ça aussi, ça prouve que c'est un sihr. Ou également le contraire, il est en colère d'une personne. Il ne peut pas supporter, par exemple, son père. Il ne peut pas supporter sa femme. Il ne peut pas supporter ses enfants. Ça également, hein, ça rentre, hein, dans les catégories de sihr. يؤثر كذلك نزيفا. Et également, hein, le sihr apporte également des hémorragies. Alors ces hémorragies-là, elles peuvent être chez les femmes par des hémorragies externes, hein, qu'ils ont donc, hein, dans plus que les menstrues, c'est-à-dire, hein, les menstrues c'est quelque chose de naturel, mais du sang qui coule tout le temps, hein, et qui ne s'arrête pas. C'est des hémorragies, et il y a aussi des hémorragies dans le nez également, ça aussi. Et certains même dans les oreilles. Certains même dans les oreilles. Tout cela donc prouve que il est possible qu'il y a un sihr, c'est-à-dire un sortilège, qui a été fait sur cette personne-là, si les médecins n'ont pas trouvé, hein, le problème. Donc, il y a donc des sihrs qui sont des sortilèges qui sont relatifs aux maladies, toutes formes de maladies, et il y a des sihrs également qui jouent sur les sentiments des personnes, comme on a dit, l'amour ou la haine d'une personne. Mais, et là, écoutez bien. غالب السحر الذي يفعل في المريض يرجع إلى أمرين. Toutes les sorcelleries. Moi, je ne vais pas vous les citer parce qu'elles sont longues, comme on a dit. Mais toutes les sorcelleries, elles reviennent à deux choses. Peu importe comment il les a fait, le sahir. Mais en tout cas, elles reviennent à deux choses. Elles reviennent à soit une chose que la personne a mangée, d'accord, ou soit une chose, un acte extérieur. Une chose qu'elle a mangée, par exemple, c'est le sahir donne au malade quelque chose à boire. Et ces choses-là, il n'est pas obligé de les voir avec quoi? Avec ses propres yeux. Hein. Il suffit que quelqu'un veuille te faire un sahir, il te met ça dans un café, et ça y est. C'est fini, tu vois rouge, tu vois vert, tu vois blanc, hein, tu vois de toutes les couleurs. D'accord? Donc, soit c'est un fi'l d'akhili, soit c'est un acte intérieur, ou soit c'est un acte extérieur. Alors je réexplique l'acte intérieur, c'est quoi? C'est soit il a fait manger, ou soit il a fait boire. Vous m'avez suivi ou pas? Alhamdulillah, vous m'avez suivi. Allez. Donc soit il le fait manger, soit il le fait boire, ça c'est pour l'intérieur. Et on va parler donc des symptômes pour savoir si la personne elle est ensorcelée ou pas. Ou soit c'est extérieur. Fi'lun khariji, un acte extérieur. Cet acte extérieur, yahwan, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont fait aussi au prophète alayhi salatu wassalam, quand ils ont pris ses cheveux et qu'ils les ont jetés dans un puits. D'accord? Ça, c'est un des pires du sahir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé par un des plus grands sahirs, par un des plus grands sortilèges. Donc on a dit soit intérieur, soit extérieur. Alors cette chose extérieure, khatiratun jiddan, elle est vraiment dangereuse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le sahir, il fait une chose grave. Il prend, comme on a dit, une trace du mari, du patient, et ensuite, il la perche au-dessus d'un arbre, par exemple, et qu'à chaque fois que le vent, il va souffler dessus, plus il souffle, plus il va souffrir. Vous avez compris? Plus il souffle, plus il va souffrir. Ou alors, il va le jeter dans quoi? Il va le jeter dans de l'eau. Ça, c'est toujours quoi? L'extérieur. Il va le jeter dans de l'eau, ou il va le jeter dans quoi? Dans un puits. D'accord? Celui-là, hein, c'est celui qui a été fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait avoir fait une chose, et il ne l'avait pas faite. C'était ça, la chose que a encouru, ce sihr-là, il a provoqué cela dans le prophète alayhi salatu wa sallam. Également, l'acte extérieur aussi qu'ils font, c'est qu'ils prennent le sihr, ils prennent le sortilège, et ils l'approchent des fours. Ils le mettent à côté d'un four. Ou à côté d'un moteur de voiture. Maintenant, il y a les moteurs de voiture. Il y a les fours, il y a les moteurs. Hein? Et si la personne roule, son moteur il chauffe, ou le four il chauffe, la personne qui est derrière va chauffer elle aussi. C'est-à-dire qu'elle va, ça va l'influencer directement, hein, sur elle. Et quand ça va être froid, ça va être. Voilà, imaginez-vous, miskin, celui qui, hein, ils ont mis son sihr sur, je sais pas, un routier. Miskin, il va le marrer tout le temps. Donc ça, c'est une forme, hein, de sihr. Également, ils l'enterrent comme si c'était un mort. Ça veut dire qu'ils font quoi? Ils viennent, ça c'est toujours quoi? On parle toujours quoi? De l'acte extérieur. Ils viennent, ils prennent quoi? Ils prennent le sihr, le sortilège. Et il y avait une femme qui faisait ça. Ils le rentrent dans la bouche d'un mort, et ensuite, il coule la bouche. Et ensuite, quand il est enterré, il est enterré. Et puis le sihr va le chercher après. Tu déterres le mort pour ceci, pour cela. Ou alors, il creuse un trou, et comme on l'a dit, il pose le sihr dedans, et personne ne... Et une fois, moi j'en ai vu un sihr. Il était dans une grosse boîte de lait, là, les nidos, là, les boîtes de lait. Ils ont sorti une tête, et c'était une tête de poisson, et la tête, elle était cousue d'une manière. Le poisson, la tête du poisson, elle est encore fraîche, en plus, c'est ça le pire. Je sais pas comment qu'elle a fait pour rester fraîche, hein, à l'intérieur. Mais il y avait le fil qui faisait comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et c'était plein de, il y avait plein de nœuds dans tous les fils. J'imagine même pas la personne qui a été ensorcelée. Rien que j'ai vu le bocal, j'ai dit, oh là là, celui-là, ça faisait un gros truc. C'est pas un petit truc, hein. C'était pas un petit papier qui l'a enterré, c'était un gros truc comme ça. Alors vous avez compris ça, inshallah, c'est soit un acte qui est fait directement sur le malade en le faisant manger ou se faisant boire, ou soit un acte extérieur, et les actes extérieurs aussi qu'ils font, ils sont vastes, c'est large et c'est long. Mais en prenant quoi? en prenant une trace du malade. Alors les signes que la personne est frappée par celui qui est bu ou qui est mangé, Inch'Allah, essayez de bien le retenir. Celui qui a bu ou qui a mangé un sihr, la première des choses, c'est que quoi? C'est qu'il a des douleurs au ventre qui sont insupportables. Il a des douleurs qui sont au ventre insupportables. On dit toujours hors médical. Hein? Il a des douleurs insupportables au ventre. Les autres choses, les autres signes, c'est qu'il a des fortes diarrhées ou des fortes constipations. Et pour les femmes, tu rajoutes quoi? Pour les femmes, tu rajoutes des douleurs insupportables au niveau des ovaires. Alamun fil batn, ghazat, kadhalika imsak, wa kadhalika ishal, wa ghayr dhalik. Tout ce qu'on vient de dire. Donc ça, on les répète ou pas? Le premier c'est quoi? Douleur de ventre. Alamun fil batn. Le deuxième, on a dit, c'était quoi? Des fortes diarrhées. Constipation. Douleur aux ovaires pour les femmes. Tout ça, c'est des preuves que la personne a soit bu le sort, ou soit elle l'a mangé. Alors ne me dites pas comment qu'ils s'y font, etc. Ils mettent des poudres, ils mettent des choses, al-muhim, dans la nourriture, et la personne ramasse. Et un des plus grands signes également, c'est que quand tu lui donnes de l'eau ou on a lu du Coran, il vomit directement. Il vomit directement. Ça, c'est une des preuves que la personne a mangé ou bu le sihr. Donc, comme on l'a dit, les signes sont nombreux. Ça, c'est pour les signes qui concernent quoi? Qui concernent celui qui l'a mangé ou qui l'a bu. Il est difficile pour une personne qui fait ruqya, qui pratique la ruqya, de donner un diagnostic directement. Mais plus le raqi, plus la personne, plus il a utilisé la ruqya, plus il sait définir une personne si elle l'a ou elle l'a pas. Mais sachez que c'est quand même une chose difficile, car il est obligé de parler d'abord au niveau de la médecine. Il dit, ils t'ont rien dit médicalement. Regardez par exemple, je vous donne un exemple, un des plus grands signes aussi que la personne est ensorcelée, c'est qu'il a des mal de tête. D'accord? Mais il a des mal de tête qui sont insupportables. Ils sont insupportables et ils commencent souvent après l'asr. Souvent, ils commencent après le asr. Andou soudar, ba'd al-asr, wa alam shadid ala ras. D'accord? Ça, c'est un des plus grands signes que cette personne-là est touchée. Mais si la personne, par exemple, elle voit mal d'un œil, d'accord? Et qu'elle a une, par exemple, une demi-migraine. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, quelqu'un qui appuie plus sur cet œil-là, il va avoir mal au crâne, là. Ça, c'est médical ou c'est pas médical? Ça, c'est médical. Ça veut dire qu'il faut pas tout confondre aussi. Moi, j'ai connu une personne, ils m'ont dit, ils ont tout fait. Je dis, vous êtes sûr, ils ont tout fait? J'ai dit, ouais, ils m'ont dit, oui, ils ont tout fait. J'ai dit, d'accord. Je suis parti voir, je l'ai visité, et je lui ai fait le repère. J'ai lu, j'ai regardé, j'ai... Teft. Cette personne-là, je lui dis, t'as déjà mangé? Et ensuite, j'ai posé des questions sur les symptômes. Moi, pour moi, il n'y avait aucun symptôme. Il n'y avait aucun symptôme qu'il était ni entorselé et ni touché par un djinn. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, cette personne-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là? J'ai continué à lui poser des questions. Il nous dit, non, mais en fait, ma famille, ils croient que je suis malade, mais moi, je bois de l'alcool. Et j'ai bu beaucoup d'alcool. J'ai dit, combien tu buvais d'alcool? Il me disait, oh, il m'a dit, j'étais une vraie citerne, hein. Et j'ai bu, je buvais 6 bières ou 12 bières par jour. Vous savez, il faut éviter de faire ce genre de choses. C'est-à-dire, il y a beaucoup de familles musulmanes qui voient son fils s'en droguer, ou qui voient son fils... C'est vrai que le sihr, ça peut être la cause de sa descente comme ça, c'est vrai. Que le sihr peut être la cause de sa descente, de sa chute morale, etc. Mais beaucoup de familles musulmanes pensent que leur fils, s'il se drogue, ou alors s'il marche avec tel diable est tel diable, et bien directement c'est quoi? Directement il est ensorcelé. Non, il y a aussi l'influence qui joue. S'il a grandi dans un quartier défavorisé, etc., souvent, la majorité du temps, il peut être touché par les phénomènes qu'il y a dans les banlieues. D'accord? Alors, faut pas tout remettre tout le temps à Ar-Ruqya, Ar-Ruqya, Ar-Ruqya. Là. Faut pas remettre tout le temps ça. Dans la Ruqya. Donc, on revient et on dit que il n'est pas facile de donner un diagnostic. Mais maintenant, je vais répéter, Inch'Allah Ta'ala, les signes. Les signes que la personne, les symptômes, que la personne est ensorcelée. أولا يتغير مفاجأة يعني في تغير مفاجئ في طباع المسحور من الحب إلى الكراهة ومن الصحة إلى المرض ومن العبادة إلى المعصية ومن الفرح إلى الحزن والضيق وغير ذلك. La première des choses, le premier symptôme que tu peux voir sur quelqu'un qui est ensorcelé, c'est un changement radical sur la personne. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui a fréquenté des diables, hein, des gens qui sont mauvais, des alcooliques ou des fumeurs de drogue, etc. Celui-là, est-ce qu'on va dire que c'est un changement radical? C'est pas un changement radical puisqu'il a commencé à fréquenter. Hein, il a commencé à tourner autour de ces gens-là jusqu'à ce qu'il est tombé dans le péché et dans le haram. Mais quelqu'un, par exemple, tu le vois, il est bien et d'un seul coup il change. Il est bien, c'est-à-dire, il est vraiment, c'était quelqu'un qui était bien à l'école, etc. Et du jour au lendemain, il ne veut plus de l'école. Cela, mon frère, ça, c'est un signe, c'est un symptôme qu'il est possible qu'on l'a ensorcelé. D'accord? Donc, le changement radical, hein, et ce changement radical, il se fait soit dans l'amour, ça veut dire, il aime une chose, mais d'un seul coup, il la déteste. Il aime la chose, mais d'un seul coup, il passe de l'amour au dégoût total en même pas une seconde. Ça, ça prouve quoi? Ça prouve, ou c'est un symptôme, que la personne est quoi? Est ensorcelée. Également, une autre chose, c'est que il est en très bonne santé, et du jour au lendemain, il tombe malade. Une fois, j'ai connu une personne également dans ce cas-là. Il y a 14 furoncles. Un furoncle, ça fait mal, hein. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. Un furoncle, ça fait énormément mal. Cette personne-là, elle a été ensorcelée. 14 furoncles ont poussé sur lui. 14 furoncles. C'est une espèce de gros abcès, bouton rouge, que tu peux même pas toucher comme ça avec ton doigt, tellement que ça fait mal. Vous avez compris? Donc celui-là est en bonne santé, du jour au lendemain, 14 furoncles qui tombent sur lui. Et ensuite, quand on a lu le Coran sur lui, on a vu qu'effectivement, il était possédé, hein, et touché par un sortilège. Également, tu le vois aussi, il est très content, il est très heureux, et puis d'un seul coup, il devient triste. Et presque il pleure. Celui-là aussi, ce changement radical, c'est un des symptômes que la personne, elle est ensorcelée. Un autre symptôme également, من العلامات, أن المسحور يكون في الغالب سريع الغضب. La personne qui est ensorcelée, dans la majorité des cas, il s'énerve très 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 rapidement. Il s'énerve très très rapidement.
Alors, je dis pas pour les gens qui sont quoi,
quand c'est héréditaire, hein, quand on a des parents nerveux, on peut dire, ah, oh, toi, t'es un bzeuf, hein, toi, tu te mets vite en colère, alors t'es mes'heur. Non, c'est pas comme ça. Ou alors, il boit du café, 6 cafés par jour, et il est comme ça, le premier chose, il s'énerve, hein, comme Chanel Jazeera, une chambre au kahwa, hein. Eh ben, celui qui boit du café, hein, 6 cafés par jour, qu'est-ce qui se passe, hein? Il se passe qu'il peut être nerveux. C'est vrai, c'est fou. Alors, celui-là, on peut le dire, ah, t'es mes'heur. Ah, subhanallah. Une fois, là, il me dit, je bois 6 cafés par jour. C'est normal, tu t'énerves, si café par jour. Donc, non. Donc, une personne qui est tout à fait normale et qu'ensuite, il s'énerve. Qui s'énerve très rapidement, hein, alors que dans sa nature, il n'est pas quelqu'un de nerveux. D'accord? Hada, min alamat al-mas'ur. Min alamat al-mas'ur, aydan, annahu lahu alamun shadid fi al-raqaba. Lianna shayatin turidu an tatamarkad fi hadhihi al-mantiqa. حتى تتسلط عليه بأنواع من الأشياء التي تجعله يفعل الشر. Alors suivez-moi bien sur ce symptôme, et ça c'est un symptôme, vous ne pouvez pas vous tromper. Je répète. Tout d'abord, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il se divise en deux. Une certaine intérieur et quoi? Extérieur. extérieur, je vais donner, inshallah, comment le soigner, et intérieur, je vais donner, inshallah, comment le soigner. Lorsque quelqu'un est mashour, dans 95% des cas, voire 99% des cas, il est accompagné, ce sihr-là, il est accompagné d'un serviteur du sorcier. Et les serviteurs du sorcier, c'est qui? C'est les shayatins, c'est les djinns. Donc, le djinn rentre dans le corps de quoi? De la personne. Une fois qu'il est rentré dans le corps de la personne, il y a des, et c'est pour ça que c'est difficile, là je reprends encore une fois, c'est pour ça que c'est difficile de dire, celui-là, il est juste touché par un djinn, parce que le djinn, il peut rentrer sans sorcellerie, d'accord? Et la majorité du temps, il rentre avec une sorcellerie, d'accord? Mais il y a des fois où il rentre sans sorcellerie. Donc c'est difficile de dire, t'es ensorcelé et t'es touché. Vous avez compris? C'est difficile de dire ça. Vous avez compris pourquoi? Vous avez compris là, Inch'Allah. Donc c'est difficile de dire que t'es ensorcelé et t'es touché. Pourquoi? Parce que les symptômes dans lesquels s'il est touché, comme la majorité du temps, il y a une sorcellerie derrière, il va être quoi? Il va être ensorcelé et touché. D'accord? Mais en tout cas, pour savoir vraiment si la personne elle est touchée, elle a une douleur, alors je me retourne, pour bien vous regarder, elle a une douleur de en dessous, entre le clavicule ici, d'ici, jusque là. Voir, non, vraiment jusqu'ici. Ça fait tout ça. Comme ça. Des blocages au niveau de la nuque. Ou des blocages au niveau de tous ces endroits-là. Ça veut dire qu'elle est touchée, la personne. Hors médical. Toujours, c'est la règle, hors médical. Vous avez compris ou pas? Alors la personne qui a une douleur là, constante, tous les jours, هذا من أكبر العلامات, que c'est un diable qui est rentré dans son corps. Rajoute à ça, à cette chose qu'on vient de dire, une douleur insupportable à ce niveau-là, à la tête. Rajoute à ça. Et rajoute aussi une autre chose, c'est que cette personne-là qui est touchée, souvent fait des mouvements comme ça dans la prière. Comme ça à gauche. Il y en a, ils vont venir me voir à la fin. Oh mon frère. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup dépêchés. Allah musta'an. Donc, il fait comme ça, il fait des mouvements comme ça. Des mouvements, il n'arrive pas à tenir son cou sur place. D'accord? Et donc, il a des comme des torticolis, etc. Et ça, il y a des gens, des savants, ils ont fait des tests de fréquence et ils ont vu qu'effectivement il y avait des fréquences de entre le cerveau et entre quoi et entre ils ont fait des tests et ils ont vu qu'il y avait des fréquences qui étaient bizarres au niveau de la nuque pour tous les gens qui étaient quoi, ils étaient monsieur. Mais allez savoir pourquoi ils provoquent des migraines, ces djinns là les savants ils ont dit que en fait une fois que la personne est ensorcelée par intérieur ou par extérieur, par un acte intérieur ou par extérieur, le djinn, il rentre dans le corps de la personne, il vient ici pour le rendre fou. Il veut contrôler le cerveau. Alors, il veut le contrôle du cerveau. Alors, qu'est-ce qu'il se met à faire? Il se met à balancer un tas d'informations. Et c'est pour ça que tu vois que quelqu'un, quand il est touché par un djinn, il a beaucoup de waswas. Vous avez compris? Il a beaucoup de waswas. Alors, il se dirige vers l'oro. Ah, mais j'ai fait l'oro, j'ai pas fait l'oro tout à l'heure. Et puis, ça c'est Yajouz. Et puis, ah là là. Et il a beaucoup de waswas. Et énormément d'idées qui viennent à ce moment-là. Comme ça, dans son cerveau qui se balance. Et ça, c'est pour le rendre fou et pour le faire, le déstabiliser et dire, khalas, moi je veux plus de cette religion, il sort de la religion. Vous avez compris ça? Donc, les douleurs ici, et ça. Et tu le vois, il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup cet endroit-là. Celui-là, si médicalement il a rien trouvé, comme on a dit, ben celui-là, c'est une grande preuve qu'il est touché par un sihr, mais par un diable surtout. Parce que ça, c'est l'endroit du serviteur de qui? D'Iblis. Vous avez compris ça ou vous n'avez pas compris? Voilà. Également, tu trouves aussi, dans la personne qui est mas'ur, tu trouves qu'il a des volontés que ça ne vient pas de lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait 5 prières par jour. Il est assidu à la prière, et puis d'un seul coup, il veut voir, je ne sais pas, il veut faire une désobéissance. Comme aller regarder quelque chose qui est haram, quelque chose qui est interdit. Vous avez compris? Il est assidu tout à la prière, mais d'un seul coup, il supporte plus, il faut qu'il fasse du haram. Vous avez compris? Ça, c'est pas normal, c'est vrai, c'est faux. Ça, c'est un signe qui est quoi? C'est un symptôme. Pas quelqu'un qui tourne autour du haram, n'y aura pas quelqu'un qui s'amuse avec ses yeux à regarder un peu n'importe où, et puis après il dit oh, je suis mas'hour. Non, 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 ça t'es pas mas'hour. Moi je te parle de quelqu'un qui a assis dire sa prière et qui vient, et que d'un seul coup il veut courir vers le haram, il veut faire même le haram. A'oudou billah. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça c'est des signes qu'il est quoi? Qu'il est ensorcelé. Également, tu vois dans la personne qui est envoûtée ou qui est ensorcelée, hein, tu vois qu'elle n'arrive pas à fixer un endroit. Alors quand elle parle avec toi, elle n'arrive pas à fixer. Ça va vers le bas ou ça va vers le haut, son regard. Et des fois, il voit des choses floues. Et des fois, il voit des illusions. Il voit des choses floues ou il voit des choses illusoires. Il voit le visage de sa femme, par exemple, et hop, ça se transforme. Ça aussi, ça te signe qu'il est quoi? Qu'il est envoûté. Un des autres signes aussi, on peut savoir si on est ensorcelé ou pas, ou qu'on est envoûté. Il y a une odeur, qui sort de la bouche insupportable. Car souvent, les gens qui ont mangé ou qui ont bu le sihr, il ressort de là une odeur vraiment insupportable. J'ai connu une personne qui était ensorcelée et qui était touchée justement par ça. Wallah, cette personne-là, tu ne pouvais pas trouver plus propre que lui. Franchement, mashallah, il avait un qamis, il brillait de loin, on le voyait. Il était très très propre. Et cette personne-là, on lui a fait ruqya. Et il y avait une odeur qui se dégageait, une chaleur de sa bouche insupportable. Même s'il se brosse les dents, même s'il fait ce que tu veux, il avale même de la menthe, ça revient. Ça revient à une odeur insupportable, même avec la menthe. Allah l'avait. Et également, tu trouves une odeur qui se dégage de tout son corps, malgré qu'il se lave avec du savon tout le temps, une odeur insupportable. Ça aussi, c'est un signe, hein, qu'il est ensorcelé. Et surtout aussi le crâne. Son crâne, hein, il dégage une odeur qui est aussi insupportable. Ça, c'est un signe de quoi? C'est un signe de sorcellerie sur la personne. Les femmes, rajoutent à cela, pour les femmes, que si elle a mangé, elle a des douleurs dans le ventre, comme on a dit, c'est pas spécifique aux hommes, c'est pour les hommes et pour les femmes. Mais rajoute à cela des douleurs dans quoi? Dans les ovaires. Et des troubles dans ses menstrues, mais insupportables aussi. Et des douleurs insupportables. Ça aussi, ça prouve aussi qu'elle est quoi? Qu'elle est mas'houra, miskine. Qu'elle est envoûtée. Et des boutons au niveau de ses ovaires, sur la peau. J'ai oublié aussi de dire un cirque qui est très très rare, une sorcellerie qui est très très rare, et qui se fait aussi à l'intérieur du corps, c'est des huiles. Il y a des gens, des fois, ils vont te masser avec une huile, hein, ils vont te la mettre sur le corps, hein, ils vont masser la personne, et ça va créer des eczémas, ou des boutons, ou alors de te laver les cheveux avec une chose. Ça c'est quoi? Ça aussi c'est des formes de sihr. Ça aussi j'ai oublié de les rentrer dans quoi? Dans les sihr qu'on fait sur la personne directement. Alors celle-là, tu vas les reconnaître rapidement. Perte de cheveux, si elle la met dans les cheveux. Et si elle la met dans l'huile, si elle est massée dans l'huile, ça va être des boutons ou des eczémas ou des choses insupportables dans l'endroit où on la masse. D'accord? Et ça, Inch'Allah, on va te donner ses remèdes également. Taïf. Donc, voilà pour ce qui est des plus grands devoirs, les plus grands signes. Également, parmi les signes, c'est que la personne, elle ne peut pas supporter, la personne qui est ensorcelée, elle ne peut pas supporter la tastati' an, yani mada, et parmi les signes, c'est que la personne qui est ensorcelée, par exemple, elle est ensorcelée au niveau du ventre. Donc vous verrez que une autre personne, quand il voudra la toucher, il ne pourra pas la toucher au niveau du ventre. Il dit non, ne me touche pas ici. D'accord? Ou si son sorcellerie elle est faite dans une autre partie du corps, et bien il dira non, ne touche pas cet endroit. Il ne supporte pas qu'on le touche dans cet endroit. Ça aussi, hein, c'est quoi? C'est quoi? Aidez-moi les frères, c'est un signe de sihr. Également, tu vois dans celui qui a bu ou celui qui a mangé le sihr, tu vois une couleur noire, une noirceur dans son visage. Ça qu'on dit noirceur. Vous me corrigez en français. Hein? Tu vois qu'il a un signe et que c'est noir, son visage il est noir. Hein? C'est comment on dit? Hein? Voilà, na'am. Tu vois, une noirceur, hein, quelque chose de sombre dans son visage. Ça aussi, ça prouve que quoi? Que la personne, elle a mangé, hein, et quoi? Et qu'elle a bu. Le visage déformé également. Il est possible que la personne, après, si on commence à rentrer dans tous les trucs par détail, tu vas tout voir. Il y avait une personne il y avait une personne, reconnaissant par l'ensemble, tous les gens qui voulaient l'ortob, la femme, tous les gens qui étaient venus pour la demander en mariage, cette femme-là, dès que tu la voyais, ils voyaient quoi les gens? Ils voyaient une tête de porc. Ils voyaient une tête de cochon. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un miskin, moi je l'ai vu, j'ai fait oh, je l'ai vu cette femme-là, elle était comme ça, ils ont dit, ils m'ont fait ça. Je l'ai vu, j'ai pas vu une tête de mais j'ai vu une tête. C'est impossible que je regarde ça. Miskina, ils m'ont fait ça. Puis c'était une femme normale. Mais dès qu'à ce qui paraît, dès que tu la regardais, il y avait un problème. Ils nous ont fait ça. Allah Mustaan. Qu'Allah il nous protège. Qu'Allah il nous protège tous. Alors maintenant, Inch'Allah, on a bientôt fini la muhadara et ensuite on va passer aux questions. Inch'Allah ta'ala. Donc, voilà les choses, les plus grands signes de sorcellerie. Également, j'ai oublié c'est là, je vais me lever pour le montrer, ici. Ici, il y a une douleur qui est insupportable. Et ça, ici, en bas du dos, il y a une douleur qui est insupportable pour la personne qui est soit touchée, soit ensorcelée. Parce que ça, c'est un signe pour les deux. D'accord? C'est un signe pour les deux. Ou alors, elle a les jambes très, très, très lourdes. Ses jambes, on dirait des plombs. Quand elle veut lever une jambe, on dirait qu'elle a levé une jambe en plomb. Elle a les jambes très, très, très lourdes. Ça aussi, c'est des signes que la personne, elle est ensorcelée. Et comme on l'a dit, donc des mal de tête, toutes ces choses-là, ça prouve que la personne, elle est ensorcelée. ومن المهم أن نذكر بعض التحسينات الشرعية ضد السحر قبل الوقوع وبعد الوقوع. Alors, avant que le sihr nous touche, maintenant je passe à un autre élément de la conférence. Avant que le sihr nous touche, il y a des choses à faire. Il y a des précautions à prendre. Il y a des précautions à prendre. هناك بعض التحسينات الشرعية يفعلها الشخص ولا يمسه سحر أبدا. D'accord? Inch'Allah ta'ala. طيب. Parmi ces protections contre le sihr avant qu'il arrive, tahqiq al-tawhid. Tu authentifies quoi? Le tawhid, qui est l'unicité d'Allah. Si ta foi, plus ta foi elle est correcte, moins le sihr te touchera. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si quelque chose te touche de mal, sache que c'est, il n'y a qu'Allah pour te l'enlever. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala donc, yani, le tahqiq al-tawhid, le fait d'avoir corrigé sa foi. Et comment on corrige la foi? Comment on corrige sa foi? En quoi? Attention, vous allez tous être mesurés ensemble. بالعلم بالقرآن نعم tu lis le Coran. Il est vrai que dans le Coran et dans l'explication du Coran il y a les éléments principaux pour quoi? Pour corriger sa foi. صح ولا لا؟ العلم النافع الذي يعني يدفع أو يدافع عنك الأشياء غير الطيبة etc. Mais également التوحيد, c'est-à-dire qu'il faut lire les livres qui ont été écrits dans At-Tawhid, dans l'unicité d'Allah. Comment reconnaître telle chose est association et telle chose ne l'est pas. Vous avez compris ça, Inch'Allah. Et parmi ces plus grands livres, vous avez Kitab At-Tawhid. Na'am, si vous pouvez le lire. Également, Al-Usul Al-Thalatha. Tout ça, c'est des livres qui sont très intéressants à lire afin que la personne soit protégée. Na'am. Wa min akbari al-ashiya التي أو من أكبر التحسينات الشرعية تحقيق الإخلاص كذلك. Parmi les plus grandes causes ou les choses qui vont te défendre qui vont te protéger du sihr ou de ces diables, تحقيق الإخلاص. تحقيق في نفسك الإخلاص. Tu augmentes ta sincérité ou tu authentifies ta sincérité entre toi et Allah, yani vis-à-vis de tes actes. Pourquoi? Parce que Shaytan il a dit la uruyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Shaytan il a dit quoi? Il a dit je vais essayer de quoi? Je vais essayer de tous les égarer. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Sauf tes sincères serviteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sincérité, hein, provoque quoi? Provoque la fuite de qui?
De Shaytan.
كذلك من الأشياء التي هي من التحسينات المحافظة على الطاعة. Hein, le fait aussi de faire, d'être assidu dans les adorations d'Allah. Quelqu'un qui, par exemple, fait ses cinq prières, le prophète, alayhi salatu wassalam, hein, dit que celui qui fait salat al-fajr, celui qui fait la prière en jama'a, salat al-fajr en jama'a, ça le protège ou pas? Il a dit, ça le protège, alayhi salatu wassalam. قال عليه الصلاة والسلام فهو في ذمة الله. Il est dans la protection de qui? D'Allah Jalla wa Ala. Également, التوبة والتقوى, tous les عمل صالح, toutes les bonnes œuvres, te protègent contre cela. كذلك ومن أعظم ذلك الأذكار. الأذكار صباحا ومساء. يعني الأذكار, les rappels, ou les évocations. Les invocations du matin et du soir. Alors essayez d'apprendre celle-là que je vais dire. Et wallah, il ne vous arrivera rien. J'ai fait ruqya, alhamdulillah, pendant des années. Et il ne m'arrivait rien à chaque fois que je disais ça. Mais dès que je l'oubliais, Allah musta'an, il y avait des attaques. Mais alhamdulillah, même quand je l'oubliais, je faisais des autres. Mais celui-là, quand je ne l'oubliais pas, alhamdulillah, j'étais protégé. Alors vous allez répéter avec moi, peut-être que vous le connaissez tous. Bismillahi. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والله تدي ça trois fois le matin après salat al-fajr et trois fois le soir après salat al-maghrib, والله العظيم que t'es protégé. Et que même si t'es mashou, même si t'es ensorcelé, tu vas voir comment il va être calmé le sifar. Eh oui. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 fois le matin et 100 fois ba'd al-asr. Celui-là, il est protégé. Celui-là aussi, il est protégé. Et également, les trois dernières sourates, qul a'udhu, qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq. Et qul a'udhu bi rabbin nas, celui qui les dit trois fois après le fajr et trois fois après le maghrib, il est protégé. Et vous avez, tiens, là ils n'ont plus d'excuses. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dal jalal wal ikram. Vous avez les adhkar, que vous dites après chaque prière, que maintenant ils ont fait un rouleau dépliant qu'ils mettent dans toutes les mosquées, qu'Allah les récompense qu'ils ont fait ça. Si c'est min bab al-dhikr, inshallah, la haraj, si c'est pour se rappeler. Hein, n'oubliez pas, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, 33 fois, ayat al-kursi. Ayat al-kursi, min a'zami at-tahsinat, ça fait partie des plus grandes choses aussi qui protègent la personne. Également, mes frères, il faut faire attention dans les mariages, ceux qui vont dans des mariages, et il y a beaucoup, beaucoup de ma'asi, où il y a beaucoup de désobéissance. Par exemple, tu as des mariages aujourd'hui, il y a énormément, énormément, énormément de musique, comme si c'était le carnaval. Comme si c'était le carnaval, ou alors on vient avec, même certains, malheureusement des musulmans, ils viennent avec de l'alcool. Eh ouais, et ils dansent, des hommes, avec la mixité, des femmes. Ça aussi, ces mariages-là, souvent, souvent, je dis bien souvent, lorsqu'on mange la nourriture, il est souvent, le repas du marié ou de la femme, lorsque la personne veut faire le sorcier veut faire une querelle ou veut faire veut créer une querelle dans un mariage, il met quoi? Il met sa sorcellerie où? Il met sa sorcellerie dans ces mariages là, là où il y a beaucoup de quoi? Là où il y a beaucoup de maras et beaucoup de désobéissance. Et également, comme on a dit quand on a expliqué également les repas d'affaires, les grands repas d'affaires, ça aussi il faut faire attention. La personne, si elle craint de la personne qui est en face de lui, qui l'ensorcelle, qu'il fasse, c'est quoi? Qu'il fasse les adhkar, c'est-à-dire les rappels du matin et du soir afin d'être protégé. Kadalika les munasaba est parmi une des plus grandes choses qui va te protéger du sihr, akhl tamr al-ajwa. Le fait de manger les septat. Les septat de quoi? Al-ajwa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a planté l'arbre de Al-Ajwa, une date qui est à Médine. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام, il dit dans un hadith, من استضح بسبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il dit que celui qui prend sept dates de l'ajwa à jeun, il ne sera pas touché par quoi? Par le sihr et par quoi? Et par un poison. Quel poison? D'accord? Alors même celui qui a mangé le sihr, et bien s'il mange ces sept dates là, ça va calmer le poison qu'il a à l'intérieur. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et il y a certains savants, ils ont dit que c'était pas les ajwa, mais c'était les sept dates de n'importe où de Médine. Sept dates de n'importe où de Médine. Et certains savants, ils ont dit que c'était pas cette date, yani que le hadith, il pouvait être aussi sur quoi? Sur sept dates du monde entier. C'est-à-dire que tu manges ces sept dates-là, comme Ibn al-Uthaymin et Cheikh Sa'di, vous voyez que c'était des dates que tu pouvais manger de n'importe où. Sept dates. C'est-à-dire même la Deglat Nour de chez nous, hein, si ton... on voit qu'il y a des biscuits, mashallah. Les sept dates, hein, de Deglat Nour, si t'en manges sept, certains savants voient aussi que toi, que tu es protégé contre le sihr. Ça y est. Donc, comme on a dit alors, hein, voilà pour les choses qu'il faut faire avant quoi? Avant d'être touché par ces maladies-là. Bientôt fini, Ikhwan. Après, je vais vous dire salam alaikum. Hein? Alors, les choses après le ruq. Après le ruq, c'est-à-dire, al-ashiya allati tusta'mal ba'd al-ruq. Hein? Après qu'il y a eu la sorcellerie, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez compris? On a dit avant, maintenant on dit après. Comme on a expliqué, on a dit que le sahir, soit il est mangé, ou il est avalé, hein? Ou soit il est quoi? Ou soit il est fait par un acte extérieur. Alors, s'il a été mangé, ou s'il a été bu, il faut faire quoi? Il faut le sortir. Et moi je conseille, avant de faire n'importe quel ruqya, que à partir du moment où tu as entendu, alors je récapitule, vous vous souvenez des symptômes de celui qui l'a mangé? Alors si la personne, il a les symptômes qu'il a mangé du sihr. Il a les symptômes qu'il a mangé du sihr ou qu'il l'a bu. Et en plus, les symptômes qu'on a rajoutés, le mal de nuque, etc., ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le djinn aussi est rentré. Wa idha dakhala al-djinn, s'il est rentré le djinn, sachez que le djinn, c'est le moteur actif du sihr. C'est le moteur actif du sihr. C'est ça qui accélère les effets du sihr. Par exemple, quand quelqu'un est en colère contre sa femme et qu'il a mangé du sihr, il va sentir tout de suite la douleur. Et il va voir sa femme comme si c'était un diable. Il va vouloir la frapper, etc. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Sans compter les autres choses. Alors, est-ce que venir sur lui et lire le Coran comme ça directement, ça va suffire? Les savants, ils ont dit quoi? Comme Ibn al-Qayyim, il dit que la meilleure des méthodes, c'est istifra. L'istifra, c'est-à-dire le fait de faire sortir cette matière, hein, qui est le sihr. Alors, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord sortir le sihr du mari. D'accord? Sortir le sihr, le sortilège du mari s'il l'a mangé. Alors, je vais vous donner directement les choses qu'il faut faire pour, inshallah, sortir le sihr du mari. La première des choses, c'est lire le Coran dans de l'eau. Je sais qu'il y a une divergence entre les savants sur ça. Certains voient l'avis qu'il est possible, d'autres ne le voient pas. Parmi ceux qui le voient, Ibn al-Qayyim, Cheikh al-Islam et des grands savants voient cet avis-là. Et d'autres, comme Cheikh al-Albani, voient que la lecture du Coran est suffisante. D'accord? Parmi nos contemporains. Mais les gens comme les autres savants comme Cheikh Ibn Baz, hein, etc., Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Uthaymin, etc., voit qu'il n'y a pas de mal à prendre de l'eau et lire Al-Fatiha, lire Ayat al-Kursi, lire les versets qu'il y a eu, hein, l'histoire entre Moussa et Pharaon, d'accord, hein, آل موسى فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب هارون وموسى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين نعم إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح ساحر حيث أتى c'est verset là plus les trois dernières sourates قل أعوذ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس peu importe le nombre de fois que tu lis il est préférable aussi sept fois comme disent les savants et tu lis aussi ayat al-kursi الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية يعني vous lisez ayat al-kursi également le verset واتبعوا ما تتلو الشياطين على Mulki Suleiman wa Makafara Suleiman. D'accord. Alors tu prends de l'eau, tu te mets à cette distance-là, à peu près 5, 10 cm, et tu lis cela sur un litre d'eau. Et ensuite, tu fais ce qu'on appelle le nafat, c'est-à-dire tu poussières dessus. Comme cela. D'accord. Et ensuite, tu bois cette eau-là. Si tu peux boire un demi-litre à jeun, et tu vois que le ventre commence à aller mal, et tu commences à te sentir mal, ça veut dire que la personne, il est possible. Qu'il est donc ensorcelé, surtout s'il a des nausées ou il vomit, ou des gros rots. Des gros rots, ou le vomir, ou quoi, ou des nausées. Ça, c'est un dalil, هذا دليل على أن هذا الشخص également il est sahih. Et c'est la meilleure des manières. Ah, il y a une seule question, mashallah, Allah l'égalise. Hein? Donc, il a, ça, c'est la chose, hein, boire de l'eau marqui, ça fait, inshallah, évacuer, hein, la madda sihriya, c'est-à-dire la chose avec laquelle on a bu ou mangé. Voilà, de toute façon, c'est soit vomir, alors attendez, soit vomir, soit les. Comment on appelle ça hein, les selles. Ouais, les selles. Je ne veux pas être grossier, hein. Les selles. Taïe, voilà une bonne diarrhée. Exactement, comme il nous dit le chef, hein, une bonne diarrhée. Alors, vomir, c'est avec l'eau, souvent avec l'eau qu'on a bu. Hein, et que le marqué comme on appelle, et la meilleure des eaux que vous pouvez utiliser, c'est quoi? Zemzem, comme il est venu, le prophète alayhi salatu salam, ma ou zemzem, et ma shurib ala, le prophète sallallahu alayhi salam, il nous a donné les mérites de ma zemzem, et moi j'ai vu les mérites de ma zemzem, on a essayé avec l'eau normale, hein, cristalline, etc., tout ça, là, hein, ça fait pas l'effet que ça fait, zemzem. Allah musta'an. فيشرب على إناء ونعم ويقرأ القرآن وينفث فيه ثم يشرب ذلك ثم يتقيا أو يعني يقع يعني ماذا وجع في البطن ينسويت وبعد ذلك يشبك إلى ديجاري زي بقيس إن شاء الله صافي أخمان دوزيام دي شوز استعمال المسهلات c'est-à-dire le fait d'utiliser les laxatifs استعمال المسهلات c'est-à-dire l'utilisation des laxatifs il y en a plusieurs moi je trouve que le meilleur c'est sana al-makki c'est une plante c'est des feuilles qui sont à peu près comme ça des feuilles comme ça qui font comme ça vous les trouvez alors sana al-makki en pharmacie vous les trouvez ça s'appelle sénéfoliol et il vous dit comment tu fais la tisane. Et si tu sais pas faire la tisane à base de ça, inchallah, tu peux lire sur internet, c'est bien m'expliquer, hein, c'est bien expliqué, hein. En gros, tu mélanges l'eau avec quoi? Avec plusieurs cuillères de cette plante-là. Tu la laisses tourner une nuit et ensuite tu bois ça à jeun. Tu enlèves les feuilles et tu bois ça à jeun. Qu'il soit froid ou qu'il soit chaud, ça va faire l'effet de toute façon. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans le hadith sahih, qui est rapporté par At-Tabarani, hein, il dit alaykum bisana. Vous utilisez, hein, utilisez le sana. As-sana wa as-sanut fa inna fiha shifaan min kulli da illa as-sam wa huwa al-maut. Il a dit comme pour la habba sauda que il y a la guérison avec le sana. Il y a la guérison le sana makki. Il y a la guérison, hein, de tout maut illa ish sauf quoi? Sauf as-sam. Et as-sam, ils ont dit que c'était quoi? À la mort. Naam. Il y a également une chose aussi, une plante qu'on peut utiliser, c'est Habbatul Mulouk. Habbatul Mulouk, pareil, c'est des laxatifs, c'est rien d'extraordinaire. Attention, il faut bien comprendre ça. C'est rien de, c'est pas de la sorcellerie, hein. Moi, je suis pas venu apprendre ça, Allah musta'an, hein. Parce qu'il y en a qui me regardent un petit peu, hein, Allah musta'an. C'est des plantes, na'am, hein. Les plantes, c'est de la médecine. Et c'est des laxatifs. C'est pour dégager, hein, la chose qu'il y a dans le ventre. Yahabbat al-Mulouk, celle-là, je sais pas si vous pouvez la trouver, hein. Mais si vous demandez chez les gens qui connaissent, hein, les laxatifs ou les plantes, hein, Habbat al-Mulouk, on la trouve essentiellement, hein, au Yémen. C'est Habbat al-Mulouk. Na'am, c'est un mélange de plantes fait en, en une petite boule, et dès que tu l'avales, ça y est, c'est les toilettes directes. Taïe. Il y a également As-Soufra. As-Soufra, ça, na'am, As-Soufra, c'est une poudre orange jaune, et que tu trouves également au Yémen. Et c'est une dose, c'est une toute petite dose que tu prends, mais alors là, attention, ça tu le prends, c'est, tu restes la journée à la maison. Hein, c'est comme une gastro. C'est comme une gastro, tu vas vomir et tu vas, hein, te vider beaucoup, beaucoup de sel. Hein, na'am. Il y a également Zayt al-Kharoua. Zayt al-Kharoua, c'est ce qu'on appelle l'huile de castor. D'accord? Zayt al-Kharoua, tu prends quelques cuillères de Zayt al-Kharoua, c'est un très bon laxatif. Et je vais expliquer pourquoi je donne ces laxatifs-là. D'accord? À la fin, inshallah. Vous avez également un cachet qui s'appelle Dulcolax. Je dis, oh là là, c'est déconné, hein. Dulcolax. Moi aussi, je les ai appris, mais je ne sais pas. Dulcolax, ça, c'est un très bon laxatif. Ça enlève tout ce qu'il y a dans le ventre. Ça dégage tout. Et également, une chose qui marche pour tout le monde, mais attention, il faut faire attention les femmes enceintes et les femmes qui sont enceintes, etc. Il y a des précautions aussi à prendre. D'accord? Et il y a un truc qui marche pour tout le monde, c'est quoi? C'est le lactulose. Le lactulose, c'est quoi? C'est un laxatif, mais le moussahalat, et qui fait sortir tout ce qu'il y a dans le ventre. Maintenant, moi je vous en ai cité, il y en a d'autres, il doit y en avoir d'autres. Je sais pas, moi par exemple, tu vas chez nous, bled, peut-être qu'ils ont des autres mélanges de plantes qui font tout sortir ce qu'il y a dans le ventre. Aham mouchei, hein, la plus importante des choses, c'est utiliser ces plantes-là en tant que quoi? En tant que laxatif. Mais avant ça, celui qui peut utiliser Zamzam, avec quoi? Avec Qira'at al-Qur'an, c'est le meilleur, le meilleur, le meilleur. D'accord? Vous avez compris, Inch'Allah? Bon, une fois que vous avez utilisé les laxatifs, alors la personne, elle va se retrouver dans deux cas. Soit ça continue à lui faire mal, mais moins, ou soit c'est complètement parti. Vous avez compris? Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? On n'a pas prévu de me repose la question, etc. Hein? Une fois que vous avez utilisé Haoula et Moussahalat, il a sta'amaltum Haoula et Moussahalat, si vous avez utilisé ce genre de laxatif, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir moins de douleur, ou il va plus en avoir dans le ventre. D'accord? Voilà, c'est un lavement de ventre, une purge. Voilà, une purge. Lorsque c'est parti, Ahmadallah, awwalan. Hein, remercie Allah. Parce qu'il y a des gens, ils leur mettent un sihr dans le ventre, ils l'attachent toute la vie. Pas, pourquoi? Parce qu'ils s'accrochent aux parois intestinales. Le sihr, il se colle. C'est comme l'usqa, c'est comme de la colle, il est collé. D'accord? Donc, si la personne a réussi à faire ce lavage-là, après, son sihr qu'elle a mangé, hein, le djinn qui va être en l'intérieur d'elle, si elle en a un, et dans la majorité des cas, elle en a un, il va être très très faible. Le djinn, il va devenir, il va s'affaiblir. Le djinn, ça y est, il a ukhrij al-sihr min al-batn, le djinn, ça y est, wa idha da'af al-djinn, baqiya mada, baqiya al-ruqya alayhi. D'accord? Alors, une fois que le sihr est sorti, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à lire sur la personne qui serait encore, hein, il y a deux cas aussi. Il est possible que le djinn sorte avec le sihr, et il dit alhamdulillah, la personne elle dit alhamdulillah, ou soit le sihr est sorti, et le djinn il est encore là. Si le djinn il est encore là, il faut faire quoi? Al-Ruqya. Qu'est-ce que l'Al-Ruqya? Al-Ruqya, comme vous savez, c'est Qira'at al-Qur'an. Qira'at al-Qur'an, hein, na'am. Qira'at al-Qur'an ala al-Marid, le fait de lire quoi? Le Coran sur la personne qui est malade. Ils ont donné plusieurs conditions sur la ruqya. La première condition, c'est qu'elle se passe avec quoi? Kalam Allah. Ruqya, il faut qu'elle se passe avec le Kalam Allah, c'est-à-dire avec la parole d'Allah, le Coran. Ou alors al-Asma wa Sifat, c'est-à-dire que la personne invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Avec ses noms et ses attributs. La deuxième chose, c'est que cette ruqya, plutôt la première chose, mais peu importe le classement, cette ruqya, il n'y a pas de shirk dedans. Pour que cette ruqya, il n'y a pas d'association dedans. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith de Awf ibn Malik, il dit Awf ibn Malik, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kunna na'afan. Il dit, fa kunna ya Rasulullah, كيف ترى ذلك؟ يعني كنا عوف بن مالك يقول كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ عوف بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، on faisait la ruqya quand à l'époque anti-islamique, c'est-à-dire que le jahiliya, juste avant que vienne l'islam. Et ensuite il pose la question ce compagnon-là et il dit quoi? Il dit نعم. Il dit فكيف ترى ذلك؟ Il dit comment tu vois la chose? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est autorisée ou pas? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « I'arizu alayya ruqakum la baz bil ruqa ma lam takun shirka. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, lui, en répondant à Awf ibn Malik, il dit « Montrez-moi vos ruqya, la baz bil ruqa ma lam takun shirka. » Il n'y a pas de mal dans la ruqya, tant qu'il n'y a pas de quoi? Tant qu'il n'y a pas d'association du shirk. Donc ça, c'est une des conditions principale pour l'acceptation de la ruqya. La troisième condition, on en est à la troisième, c'est ça? La troisième condition pour la ruqya, c'est qu'il faut qu'elle soit avec quoi? Avec l'islam arabe, c'est-à-dire que tu la lises en quoi? En langue arabe. Il est possible aussi que la personne la fasse en une autre langue, mais compréhensible. D'accord? C'est-à-dire, oh Allah, je te demande de le sortir. Oh Allah, tabas. Si là où il l'a dit par exemple en français, et qu'elle est compréhensible, mais pas des mots qui sont incompréhensibles. Dès que tu vois que c'est incompréhensible, ça veut dire que c'est qui? Allah, vous savez c'est qui le sahir, hein? Masha'Allah. D'accord? Donc il faut que ça soit, al takuna hadhihi ruqya bi lisan al arabi ou bi ma yu'rafu ma'na. Hadhihi ya al shurut al ruqya. Al shart al rabi', la quatrième condition. أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. Que la personne qui va prendre la ruqya, ou qui va la donner, c'est-à-dire qu'il croit fermement que cette ruqya, tout ce qui va se passer, ça va être par la permission d'Allah, et non pas par elle-même. C'est pas la ruqya qui fait la chose ou qui guérit en elle-même. Mais c'est juste une. Un sabab, une cause, mashallah. Maintenant, il y en a qui mélangent l'arabe et le français, comme moi. Après, je suis là, la grande crise. Donc, inshallah ta'ala, vous avez bien compris ce qu'il faut faire, la ruqya. Alors, maintenant, il y a une autre question qui se pose. Et que des gens, malheureusement, qui sont touchés, et je vise personne, attention, je vise personne. Il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont cité des problèmes et c'est pour ça qu'on a ouvert la porte des questions, Inch'Allah, qui sont venus me voir et apparemment ils sont touchés par des choses, d'accord, par ce genre de choses, et c'est pour ça qu'on fait ce genre de conférence, d'accord. Je ne fais pas ruqya pour plusieurs raisons. J'ai arrêté le ruqya et inshallah ta'ala je vais expliquer ce qu'il faut faire en cas de maladie ou en cas où la personne elle est touchée. Alors moi ce que je conseille à la personne, ماذا انصح به المريض, qu'est-ce que je conseille? انصح المريض بان يتقي الله عز وجل, qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sache que tout ce qui est arrivé, ma min shay illa wa yaqa'u bi'idhnillah azza wa jalla, qu'il sache ce mari, ce mal, que la ruqya, que tout ce qui se passe, il s'est passé par la permission d'Allah jalla wa ala, et que هذا المريض, que cette personne qui est malade, wallahi elle va pas trouver mieux que qui? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme guérisseur. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme vous savez, dans le hadith de Bukhari, il a été éprouvé par ça ou là? Il a été éprouvé par le sihr. Faqad suhira man huwa afdalu minka. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il a été مسحور ou il n'a pas été مسحور? Il a été مسحور. طيب, est-ce qu'il est parti voir des guérisseurs, enfin des gens qui font le ruqya? Là, qu'est-ce qu'il a fait le prophète عليه الصلاة والسلام? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui montre où est-ce qu'il est le sihr. Et voilà la réponse pour celui qui me pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec le sihr qui est fait extérieurement? Vous m'avez suivi? On a parlé des laxatifs, ça c'est pour celui qui est intérieur. On parle maintenant du fi'l extérieur. D'accord? Quelqu'un t'a enterré un sihr. Quelqu'un qui t'a fait quelque chose, il t'a fait un sihr qui est extérieur. Ahlifukum, je peux jurer, et inshallah que j'ai pas besoin de jurer, que les gens qui ont été touchés par des sihr extérieurs, que wallah et que j'ai fait des ruqya pendant des longues heures, et qu'ils ont jamais été guéris que après qu'ils ont, hein, ou alors, na'am, que après qu'ils étaient certains, mais que après qu'ils ont été quoi? Ils ont rencontré quoi, ou trouvé quoi? Le sihr. Alors ces personnes-là, je voyais qu'ils avaient aucun symptôme quoi? Intérieur. Alors je leur ai conseillé quoi? Ya akhi, ittaqillah wa rji' ila Allah. Crains Allah et reviens à lui. C'est Allah qui t'a éprouvé avec ça. Fais la même chose que le prophète alayhi salatu wassalam, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit fad'ouni astajib lakum. Il dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Alors fais ça. Et alors là je peux vous en citer plusieurs histoires. Une personne qui a fait ça, j'allais tous les jours. Et après je lui dis ya akhi khalas, je peux plus. Moi, je suis fatigué, ça me prend trop de temps, et j'ai des choses à faire. Parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Il m'a dit, mon frère, qu'est-ce que je dois faire? Et c'était le père de la fille. Le père de la fille, il avait presque les larmes aux yeux, s'il ne les avait pas déjà. Il ne savait plus quoi faire, étant donné que le Sahara, les sorciers, avaient caché le sihr. Ils avaient caché le sihr. Donc, il était fait extérieur. D'accord. Et il rigolait, ces diables, il disait, ha ha ha, on l'a très bien caché, etc., etc. Bon. Il lui dit, Allah, il va nous le montrer. Vous allez voir. Bande de diables. Il lui dit, Allah, il va nous le montrer. Qu'est-ce qu'il a fait, cette personne-là? Le père, je lui dis, ad'u Allah. Et le père, c'était Rajul Saleh. C'était quelqu'un de bien, ce père-là. Il était assidu à la prière, etc. Kana Rajul Saleh, fi ma'sibu, wallah, sa'sibu. Fa, da'a Allah, azza wa jal, il a invoqué Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il lui a demandé de montrer le sihr, fi ma'sibu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il est sorti pour faire le na'na'. D'accord? Il a voulu planter un peu de na'na' dans son jardin. Il est arrivé. Et quand il a creusé, il a trouvé une serviette. Cette serviette, il a sorti. Quand il a sorti la serviette, ils ont trouvé une espèce de chien, de renard à l'intérieur, dans ce serviette-là, tout entouré. Et ils l'ont vu qu'il était ouvert, comme ça. Et il y avait une boule de plastique fondue à l'intérieur. Et quand ils l'ont ouvert, ils ont trouvé des herbes bizarres. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a appelé au téléphone. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait? Et il m'a dit, on l'a brûlé. Je lui dis, si vous le trouvez, brûlez-le. Il m'a dit, khlas, on l'a brûlé. Et je lui dis, vous avez mis quoi? La niya de le détruire? Il m'a dit, oui, on a mis la niya de le détruire. Je lui dis, bah, dites alhamdulillah et faites un sujoud shukr lillah azza wa jal. Hein? Faites une prosternation de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, car vous avez trouvé le sihr. On est revenu quelques jours plus tard. On a lu sur cette personne. Les djinns sont partis très rapidement. Ils ont crié bien comme il faut. C'est là qu'il a dit au pardon sorcier, etc., toutes leurs bêtises. Ils sont partis. Ils sont morts. Et s'ils sont morts, c'est Allah Azza wa Jal qui ne leur fasse pas miséricorde à ces diables. Il y en a un même, je lui dis, je veux pas que tu sortes. Moi, je veux que tu meurs. Comme ça, tu vas pas faire du mal à un autre musulman. Ça, halala. Ils ont vraiment fait des choses mauvaises. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour la personne qui est touchée extérieurement par un sihr et qui ne le trouve pas en elle-même? Il demande à Allah de lui montrer où est-ce qu'il est ce sihr. Il y a deux possibilités. Ou il lui montre réellement, ça veut dire qu'il va marcher comme ça, et que quelque chose va lui dire, et j'en connaissais une personne comme ça, miskin, il était mesrur, mais Allah il lui montrait tout le temps. Subhanallah. Mais vraiment, c'était abusé, cette personne. À un moment, j'ai eu peur. Je me suis dit, peut-être c'est un devin celui-là ou là. J'ai eu peur. D'ailleurs, regardez, cette personne-là, à chaque fois, il faisait, attends. Il mettait sa main comme ça en dessous. Il disait, regarde. et sortait de celle. Il les trouvait tout le temps. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre un signe, va te mettre un signe, ou une chose que toi tu vas regarder comme ça, et après tu vas ramasser. Et c'est ce sihr-là qu'on aura. Et là tu le détruis. Plusieurs manières de le détruire. Soit tu le brûles, soit tu le mets dans de l'eau avec que tu as lu dessus le Coran, et tu fais quoi? Fondre. C'est-à-dire tu fais jusqu'à ce que l'écriture elle disparaisse. Ça, certains savants voient que c'est de cette manière là aussi qu'il faut le détruire. Ou une autre manière, s'il y a des nœuds, comme on a dit, couper les nœuds. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Quand tu le trouves. Ou alors le brûler. Ou alors le brûler. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça, c'est si tu quoi? Ça, c'est si tu le trouves. Ida wajadtahu, hein? Fa, kama yaqul Sheikh Fawzan, tutlifuhu. Sheikh Fawzan, il a dit quoi? Quand tu lui poses la question, lorsque tu trouves le cercle, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, tutlifuhu, c'est-à-dire que tu le détruis. De n'importe quelle manière, tu le détruis. D'accord? Voilà pour cette chose-là. Taïb. Maintenant, la demande de ruqya, moi je déconseille aux musulmans de courir après qui? De courir après les raqis. Car les raqis, les gens qui font la ruqya, ils se divisent en deux. Salihoun wa talihoun. Hein? Imma salih, imma talih. Soit c'est quelqu'un de bien, ou soit c'est quelqu'un de mauvais. Alors il y en a des raqis qui sont bien. Mais ceux-là, ils sont très très rares. Et pour les gens qui sont touchés en France, hein, moi ce que je conseille, mes frères, écoutez-moi bien, ce que je conseille, c'est qu'il profite, quand il va dans son pays d'origine, qui est musulman par exemple, qu'il profite de quoi? Qu'il profite de trouver une personne qui pratique la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui est par exemple, soit qui connaît le Coran, ou soit qui connaît la moitié du Coran, ce n'est pas une condition pour le raqi de connaître entièrement le Coran, d'accord, ce n'est pas une condition pour lui de connaître entièrement le Coran. La condition est que les conditions qu'on a données, les quatre, d'accord, c'est ça les conditions sur l'autre raqi. Alors il lui dessus le Coran. Et pourquoi je dis dans les pays musulmans? Car avec l'expérience, j'ai vu que les raqiyas qui étaient faits dans les pays musulmans ont beaucoup plus de quoi, d'effets et de résultats. Il y avait une personne ici qui était envoûtée dans la région parisienne. Et il m'a dit, écoute, moi je te paye. Tu viens tous les jours. Tu viens, tu lui fais rien, moi je vais t'aider, c'est ce que tu veux. Je dis, mon frère, moi je ne peux pas. Parce que ici, en France, tu vas lui faire un ruqya une fois, puis après khalas, et puis après il y en a un autre, après khalas. Il y en a trop ici. Et pour dire ce qui est vrai, il y en a trop. Alors, je lui dis quoi? Je lui dis, tu veux vraiment que cette personne de ta famille guérisse? Il m'a dit oui. Je dis, tu veux vraiment qu'elle guérisse? Il m'a dit oui. Je lui dis, regarde, ton travail là, tu le quittes. Comment ça, je quitte mon travail? Je dis, attends, tu veux qu'elle finisse dans l'hôpital psychiatrique? Il me dit, non, non, non. Je dis, c'est une urgence? Il me dit, oui, oui. Je lui dis, il se fait une bonne Canada, je ne sais pas si c'est possible. Non, je pense c'est bon. Ça y est. Je lui ai dit, tu veux qu'elle guérisse? Il me dit, oui. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu prends ta femme. Ta femme, moi, quelqu'un de sa famille, j'ai pas, heureusement que je n'ai pas vu qu'elle s'était dit. Moi, c'était une personne de sa famille, car elle peut se reconnaître, on ne sait jamais. Il l'a pris, je lui ai dit, tu la ramènes au bled. Je dis pas le bled, comme ça j'ai pas de problème. Je lui ai dit, voilà, tu la ramènes dans ce pays-là, dans ton pays, et c'est un pays musulman. Je lui ai dit, tu cherches quelqu'un qui fait ruqya. Et je lui ai dit, pendant une semaine, parce qu'elle, elle était dans un cas grave, hein. Elle vraiment voyait, elle voyait plus rien, elle sait plus c'était quoi la vie. Elle se levait pour faire la salat. Elle se levait pour faire la salat, elle disait Allahu Akbar, elle tombait par terre. Elle avait des douleurs insupportables à la nuque, elle croyait qu'elle avait quatre cœurs. Un mohim, vraiment c'est insupportable, miskine. Alhamdulillah, Allah chafa. Alhamdulillah. Là, Allah il a guéri parce qu'il a suivi mes conseils. Alhamdulillah, enfin on parle de sabab, de mes conseils. Il a fait quoi? Il est parti donc dans son bled, il a cherché quelqu'un qui pratiquait bien la prière. Et ça, alhamdulillah, tu vas dans une mosquée, hein, tu connais les gens qui pratiquent bien la sunna. Comme on le dit, ça se voit même à leur visage, les gens. Ça, halala, ça se voit que c'est une sainte taïf. Comme ils ont dit sur Yusuf, alayhi salam, inna la naraka minal muhsinin. Ça se voit rien qu'à son visage, quelqu'un de ahl al-khayr. Alors, cette personne-là, jour et nuit, pendant presque deux semaines, ils lui ont fait rien. Et à la fin, elle voyait plus rien. À la fin, elle était redevenue normale. Elle a vomi tout ce qu'elle avait pris et elle était redevenue comme avant. Allahu Akbar. voilà mon conseil pour toi, mon frère, ou pour toi, ma sœur, qui va me poser cette question. Ce que je conseille, c'est d'aller faire une cure. Il y en a, regardez par exemple, il y en a qui sont dans des pays musulmans, qui viennent se soigner en France, c'est vrai, c'est tout. Ils viennent se soigner pourquoi ? Faire un scanner dans son poumon, dans sa langue, ou dans ses yeux, ça. Il vient, et il vient, il paye cher aussi. Il paye cher pour venir se soigner. Pourquoi toi, tu partirais pas chez, dans ton pays d'origine, qui sont des musulmans, où il y a des gens qui suivent la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et de là, tu pratiques la ruqya personne pendant une semaine ou deux semaines, et ça coûte moins cher en plus. C'est-à-dire, même pour ceux qui n'ont pas les moyens, et qui voudraient payer un ruqya, ça coûte moins cher. Et il y a une chose aussi qui a découragé aussi, ça c'est une parenthèse, qui a découragé les gens qui font ruqya ici, c'est que ruqya, la personne qui fait ruqya, on vient, il vient cette personne-là, elle fait ruqya aux gens. Et qu'est-ce qui se passe? Elle fait ruqya aux gens. Et qu'est-ce qui se passe? On lui donne 20 euros ou 30 euros. Il a lu toute une après-midi, miskin. On lui donne 20 euros ou 30 euros. On lui dit Allah est écrit, Yabni. Hein, qu'Allah est récompense, mon fils. 20 euros ou 30 euros. Non, les frères, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas. C'est bien de récompenser aussi le raqir, mais il ne faut pas abuser. Il y a mis 10 euros, il laisse sa famille, ou 20 euros, il laisse sa famille toute une après-midi. Après, les diables, ils l'attaquent, ils attaquent sa famille. Eh, ça va pas, ça. Ça, halala. Crément, quand vous voyez un raqi, essayez de quoi? De la crâne, c'est-à-dire d'être généreux envers lui. Et le sorcier, combien il lui donne? Des millions. Ah, la shaytan, on lui donne des millions. Ou ah, la rajoul salah, on lui donne des petites pièces. Non, wallah, c'est vrai. Des fois, subhanallah, c'est mieux que tu donnes rien. Oksimu billah, c'est mieux que tu donnes rien. Wallah, c'est mieux que tu lui donnes rien. Tu dis, sa'ad'u lak. Je vais te faire une dua derrière toi, inshallah, qu'Allah, Allah, fadak Allah. Une fois, je me rappelle, il y a une femme, elle nous a invités et tout. Wallah, elle a voulu donner quelque chose, et Mohim, on l'a empêché de donner quelque chose. À la koulihal, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un couscous. Elle a fait un ta'am. Je crois, de ma vie, j'ai jamais mangé un couscous comme ça. Il était trop, trop bon. Yani, ce que je veux vous dire, yani, subhanallah, des fois, il y en a qui va te récompenser avec un ta'am ou avec une chose, masha'Allah, yani, subhanallah, c'est mieux que de l'argent, ou alors une dua. Mais va pas lui donner 5 euros, là, 10 euros. Sahalala, tu vas, tu donnes 5 euros à 10 euros, quelqu'un, c'est mieux que tu lui donnes rien. On fait la ravine, c'est mieux que tu lui donnes rien. Plutôt que de lui donner quelque chose, une petite pièce ou quoi que ce soit, Allah musta'an. Ça, c'est une parenthèse aussi pour les raqis. Mais normalement, un raqi ne demande pas, inshallah ta'ala, s'il est salih. Et si on lui donne, c'est bien. Si on lui donne, c'est bien. Et vous connaissez le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, hein, qui a été cité dans le Bukhari. Paye. Donc, mon conseil, c'est quoi? C'est de prendre la personne qui est malade et d'essayer de faire le voyage avec lui vers un pays musulman, hein, et vers une personne qui pratique la ruqya. Et je vois que c'est la meilleure des solutions, surtout maintenant. Paye. La deuxième chose, c'est qu'il profite des voyages comme le Hajj et comme la Umrah. Et en Arabie Saoudite, c'est un pays où ils pratiquent, alhamdoulilah, bien la sunna comme il faut, et que tu trouves là-bas des gens qui sont très très forts dans la ruqya. D'accord? Alors il va aller voir ces gens qui pratiquent la ruqya, il profite, il va, il fait une umrah, ou il fait un hajj, et en même temps, il y a beaucoup de temps, hein, il y a beaucoup de temps vide, pour qu'il aille voir quelqu'un qui pourrait le aller. Mais dans tous les cas, je déconseille de demander la ruqya. Si c'est quelqu'un qui prend le malade et qui le ramène, la laisse. Mais si c'est la personne qui demande la ruqya, il est possible qu'il ne rentrera pas dans le hadith, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que 70 000 yadkhuluna min ummati yadkhuluna bighayri hisabin wa la adab. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'était qui ces gens-là? Il dit, la yastarqoun wa la yakhtawoun wa la يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Quatre caractéristiques des 70 000 personnes qui rentreront au paradis, hein, بغير حساب ولا عذاب. Ils rentreront, hein, au paradis sans hisab, sans compte, sans jugement, ولا عذاب, et sans sans châtiment. Les caractéristiques, c'est quoi? Ils ne pratiquent pas la cautérisation, la yaftaroun. La yastarqoun, ils ne demandent pas la ruqya. Pourquoi ils ne demandent pas la ruqya? Parce qu'ils ont un tawhid qui est fort avec Allah. D'accord? Et quoi? لا يتطيرون. Ils n'ont pas des augures, c'est ça. Ils ne font pas de mauvaises augures. وعلى ربهم يتوكلون. Si tu n'as pas ces trois choses-là, les trois choses qu'on vient de citer, فأنت متوكل على الله. Tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Mufti, hein, l'ancien, a dit quoi? A dit que, a donné une règle dans la ruqya. Il a dit, كلما قلت الوسائل كلما كانت الرقية أقوى. Il dit, Mohammed ibn Ibrahim, moins il y a de choses, de moyens vers le malade et le raqi, plus il y a quoi? Plus il y a de l'effet dans la ruqya. Ça veut dire que la meilleure ruqya, c'est celle qu'on se fait soi-même. Comme le prophète alayhi salatu wa salam, et comme Sheikh l'Albani expliquait, il disait que la meilleure ruqya, c'est toi, tu te la fais toi-même. Et il y avait une personne aussi de ma famille, il y avait une personne aussi de ma famille qui avait, qui était touchée par cela, et que lorsqu'elle lisait, elle, le Coran, tout de suite, elle commençait à trembler, etc. Il y avait tout de suite des effets. Mais lorsque c'était une autre personne, ça ne faisait pas le même effet. Elle n'avait rien. Pendant des heures, on pouvait lire. Vous avez compris? Ça, ça prouve quoi? Ça prouve que la meilleure ruqya, c'est laquelle? C'est celle qu'on se fait soi-même. Donc, voilà la meilleure ruqya pour mes frères, hein, comme on vient de le citer, inshallah ta'ala. Alors, donc, profitez d'un voyage en Hajj ou en Umrah, profitez aussi d'un voyage, et, ou alors, ce que j'encourage, c'est quoi? Ce que j'encourage, c'est de faire ruqya à soi-même, hein, en soi-même, et Allah, wallahi Allah, il va le guérir. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il nous ramène quelque chose, il nous ramène une règle. Il nous dit, beaucoup de malades. Il nous dit qu'il y a beaucoup de malades. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils tombent malades, ils se précipitent pour aller voir qui? Les créatures. C'est-à-dire, il va aller voir les médecins, il va aller voir les mu'alaj, les gens qui soignent, etc. Il dit, et il oublie le tawakkul ala Allah. Et il oublie quoi? Il oublie la confiance en Allah. Rien de ce tawakkul ala Allah. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit sur l'islam? Il dit, et Allah, de ce fait-là, il ne le guérit pas. Allah Azza wa Jal, la yashfi. Pourquoi? Parce qu'il est, il s'est dirigé vers qui? Vers les créatures. Et il a appuyé sa confiance envers qui? Envers les créatures. Vous avez compris? Plutôt que de l'appuyer envers qui? Envers Dieu. Il a dit, Cheikh al-Islam, ensuite il a dit, wa law kana tawakkala ala Allah fi bidayat al-amr, la shafahu Allah. S'il avait tawakkul Allah, s'il avait fait confiance en Allah dès la première fois, Allah l'aurait guéri. C'est pas important ça, mes frères? C'est important, c'est très important, et qu'Allah il guérisse donc, hein, tous ces gens qui sont malades. Dernière question également que j'aimerais bien aussi traiter, c'est donc on a compris qu'est-ce qu'il va faire le malade, hein, inshallah ta'ala. D'accord, la meilleure ruqya, c'est celle qui se fait soi-même. Aïe. La dernière question, c'est, est-ce qu'il est possible de guérir un sihr avec un autre sihr? Ça, c'est une question, ce qu'on appelle la nushra, hein. C'est une question, c'est guérir un sihr avec un autre sihr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, cela est un amal shaytan. Le prophète, alayhi salam, dit que c'est un acte du diable. Comment va-t-on guérir un sihr avec un autre sihr? S'il fait un sihr, il va faire quoi? Du coup, donc entre temps, s'il meurt, il aura fait du kufr, hein, et s'il meurt, il va où? En enfer. Donc inshallah, et c'est vrai qu'il y a certains savants qui voient cet avis-là, mais cet avis-là, il est, hein, il y a des avis qu'on peut accepter, il y a des avis qu'on ne peut pas accepter. Et Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh disait, as-sihru haram wa kufrun afa ya'malu al-kufr li tahya an-nufus marida aw musaba. Sheikh Mohammed ibn Ibrahim disait, la sorcellerie est interdite et c'est de la mécréance. Est-ce qu'il va commettre une mécréance pour refaire vivre des âmes qui sont malades ou qui sont touchées? Ça, c'est quoi? Ça, c'est certes une œuvre de qui? Du diable. C'est certes une œuvre du diable. Voilà, inshallah, le khulasa qu'on a voulu, hein, citer dans ce dars, c'est-à-dire un résumé de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Naam. Également aussi, j'aimerais aussi dire, donc, une chose, c'est que, j'ai oublié aussi de citer, c'est que les gens, certains raqis utilisent les djinns. Ils demandent de l'aide aux djinns. Les savants ont dit que cela était interdit, parmi le Cheikh Al-Uthaymeen. Il dit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait cela, ni les compagnons. Même il dit c'est un djinn saleh. D'où il peut savoir qu'il est saleh? Ça se trouve que c'est pas un saleh. Ça se trouve c'est quoi? Ça se trouve c'est un kafir. Et il est en train de jouer. Alors même les gens qui pratiquent la ruqya et qu'ils utilisent quoi? Qu'ils utilisent les djinns, hein, et qui disent oui mais c'est nos frères, il y a des musulmans. Oui, il y a des musulmans, mais toi tu peux pas le savoir, tu ne sais pas. D'accord? Donc celui-là, c'est quoi? On dit que c'est interdit, ce fait-là est interdit. Également, l'autre question, la deuxième raison pourquoi c'est interdit, c'est-à-dire le fait de céder avec les djinns, que le raqi cède avec les djinns, c'est que cela est une porte ouverte. Pourquoi? C'est une porte ouverte vers le shirk. Pourquoi? Parce qu'après, ça va être un mélange. On va dire, c'est un raqi ou un sorcier? C'est ça qu'on va dire. C'est vrai, c'est faux. Le gars pense, c'est un raqi ou un sorcier, celui-là? Et malheureusement, beaucoup de diables, beaucoup de shayatin, hein, jouent avec l'esprit de ces gens-là qui se disent qu'on peut céder d'un djinn et qu'à la fin, ils se retrouvent, hein, dans des choses graves, dans des choses très très graves. Et la dernière des choses, inshallah ta'ala, que je voulais dire dans cette muhadara, c'est une question qui se pose beaucoup de nos frères, inshallah, c'est le magnétisme. Vous connaissez le magnétisme? C'est une manière soi-disant de guérir. Il dit voilà, moi je touche, je mets ma main dans cet endroit-là, il va guérir. D'accord? Le magnétisme, les savants ont dit que c'était une forme de sorcellerie. Et celui qui a dit ça, c'est Shir Al-Allamatu Ibn Badran. Al-Allamatu Ibn Badran, il dit que le magnétisme est une forme de sorcellerie. Il dit ça dans son livre Jawahirul Bihar, page 294 à 296. Voilà pour la conférence. Wa inshallah, un petit moment, si vous voulez, et ensuite on passe aux questions. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, pour tout le bien et pour tout le silence que vous avez eu, inshallah, pour l'écoute. Excusez-moi si j'ai, comme je dis, excusez-moi, inshallah ta'ala, si j'ai tardé un petit peu, mais wallah, ça me tenait à cœur. Et je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui, inshallah, que ça va éclaircir pas mal de choses, inshallah. Tu me dis ou là, c'est vrai ça ou fou? On passe direct aux questions, là. Hein? Alors, on va prendre la grosse liste de papiers. Celui qui veut prendre une pause, bastahwalakin bihudu, ya ikhwan. Hein, inshallah, avec silence. Celui qui sort, il dérange pas celui qui veut écouter, puisqu'il y a des gens qui sont derrière. Il va l'écouter, alors Inch'Allah Behoudou. Inch'Allah Behoudou, avec silence, il va aller aux toilettes, etc. Hein? Tout le monde peut être fatigué à cette heure-ci. Et nous, Inch'Allah, on va essayer de répondre aux questions qu'on nous a posées. Alors, Mach'Allah, il y a une bonne série de questions. C'est dans 10 minutes, la veine? Hein? Je réponds à quelques questions, Inch'Allah. La première question, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Y a-t-il un moyen de savoir si on a été ensorcelé? Et de savoir quel genre de sorcellerie, manger, marcher, mais cette sorcellerie-là, elle existe. Le fait de marcher sur la sorcellerie. Celle-là, je ne l'ai peut-être pas citée, hein. Celle-là, elle existe. C'est un liquide qu'on jette par terre, une espèce de shampoing mousseux, hein, et qui fait une grosse trace. Et la personne, quand elle marche dessus, elle est ensorcelée. Ça existe. Et quels sont les moyens de guérir par les plantes ou autres? J'ai répondu ou pas? Alors, ils ont dit que j'ai répondu. Ça y est, ma sœur est partie au bled pour se soigner. Elle a des djinns en elle. Une personne a dit à mon père qu'elle a 3 djinns, 2 hommes et une femme. Elle est partie au Sénégal, le Mali, la Mauritanie, ça n'a rien changé, pourquoi? Ça n'a rien changé, pourquoi? Premièrement, les choses changent par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on a dit. On a dit que les choses, hein, changent par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le guérisseur ou pas? C'est lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith al-sahih, hein, il dit Allahumma anta shafi, la shifa illa shifa'uk, shifa an la yughadiru saqama. Rajul, ou la personne, si elle tawakkal à Allah, et qui a dit cette dua, Allahumma anta shafi, ô toi Allah, tu es le guérisseur, la shifa illa shifa ou shifa la yuradil saqama, ta guérison est la seule, hein, et c'est une guérison qui enlève tous les maux, hein, celui qui fait cette dua là, et inshallah la personne sera guérie. Mais le problème, mes frères ou mes sœurs, le problème il est où? Le problème, il leur dit, une fois il y a une personne, on lui a dit, Wallahi, j'ai une bonne solution pour toi. Tu es malade? Oui, je suis malade. J'ai une bonne solution. Andi Hajan, luk, tu vas pas, yani, ça va être très très bien pour toi. Alors lui, il est content. Il dit, oh, mashallah, c'est une chose bonne pour moi? Il dit oui. Il lui dit, est-ce que tu es, j'ai trouvé qui c'est qui va te guérir? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu lui dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te guérir, tu vois son visage, il fait ça. Il se baisse. Ça, c'est quoi ça? Ça embarque dans tawakkul. C'est une faiblesse. Il veut quoi? Il veut que le raqi claque des doigts. Ou il veut alors que quelqu'un claque des doigts et la maladie, elle part. Ça part pas comme ça, les maladies. La maladie, elle part. Incha'Allah, bihudu, ya ikhwan. Il y a des gens qui veulent écouter, hein, pour ceux qui sont derrière là. Allah, il va les faire écouter. Inch'Allah bihudu. Vous allez, inch'Allah, tout prendre de ces livres-là qu'il vous donne. Mais inch'Allah bihudu. Inch'Allah bihudu. Avec silence, barakallahu fikoum. Donc, hein, tu me poses la question et tu me dis, elle est partie au Sénégal, au Mali, à la Mauritanie, et ça n'a rien changé. Moi, je te dis que cette personne-là, il faut l'aider en lui faisant des du'as. Et que cette personne-là aussi fasse des du'as. Inch'Allah, Allah, il va la guérir. D'accord? Il n'y a qu'Allah qui guérit. Alors l'autre question, pour la ruqya, y a-t-il des versets spécifiques à réciter? Et si oui, lesquels? J'ai dit ça. Sah? Alors la plus grande surah qui peut éviter les bruits de plastique, barakallahu fikoum, c'est dérangeant, yakhwan. Moi aussi, je suis. On est fatigué, on a envie de. Inch'Allah, je suis yahoudou. Alors les versets. C'est que j'ai dit qu'il y en a d'arrêter, ils ont. Encore plus. Alors, les versets spécifiques, c'est quoi? C'est Al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le prophète alayhi salatu wassalam, il a appelé la sourate Al-Fatiha, il a appelé quoi? Al-Ruqya. Il l'a appelé Al-Ruqya. Il y a aussi Ayatul Kursi. Il y a aussi Ayatul Kursi qui est Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-Aya. Il y a aussi également Al-Baqara. Il y a aussi sourate Al-Baqara. Il y a aussi les deux derniers versets d'Al-Baqara. Aman al-Rasul bima unzila ilayhi min Rabbih wal mu'minun. Ces versets jusqu'à la fin sont des versets qui protègent contre le diable avant de dormir. L'autre question, le raqi doit-il avoir ses grandes ou petites ablutions? Wallahi, raqi, le mieux c'est qu'il soit sur ses ablutions. Le mieux c'est ça, qu'il soit protégé, qu'il soit sur ses ablutions, les petites, yakfi. Et c'est pas une obligation. Nous on a donné quoi? Les conditions, sahalala. On a donné les conditions. Et c'est quoi les conditions? On en a donné quatre. On ne va pas les répéter. D'accord? Ils sont dans la conférence, Inch'Allah. T'as compris ça, Inch'Allah? Taïeb. Ensuite, l'autre question qui est donnée, le Coran récité dans de l'eau. On peut se laver avec? Si oui, est-ce que le grand lavage ou les petites ablutions? Et si oui, combien de fois doit-on se laver avec? Le Coran, on a dit qu'on peut se laver avec. Et on a oublié de citer, hein, une manière aussi de se guérir, c'est l'eau avec quoi? Cette feuille de cidre écrasée. Et avec, قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Et celui qui va rajouter d'autres versets en faisant le nafas et en écrasant cette feuille de cidre, ça c'est bon pour les gens qui ont le sihr, hein, le sihr qui est fait entre la femme et l'homme, hein, entre la femme et l'homme. Donc ils peuvent se laver, et en vérité il n'y a pas de nombre précis. Et celui qui veut se laver, il se lave, il fait pas les grandes ablutions, mais il se lave complètement avec. D'accord? Il se lave complètement avec. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Al-Muhim, si on peut appeler ça grande ablution, Al-Muhim, il se lave avec. Il se lave, c'est-à-dire que l'eau touche tout son corps. D'accord? Si oui, combien de fois se laver avec? Il n'y a pas vraiment de nombre. Pourquoi? Parce que des fois, il y en a une fois, ça va le suffire. Et il y en a 10 fois, ça ne va pas le suffire. Ça? Donc il fait jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il soit guéri, barakallahu fikoum. L'autre question, pendant combien de jours faut-il boire la bouteille d'eau ou pas d'importance. Qu'il boit, yani il boit, il n'y a pas vraiment un nombre important. Il n'y a pas vraiment un nombre précis, mais Inch'Allah, il le fait jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il voit, il est fait déjà. S'il voit que le sihr s'est allégé sur lui, il continue jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Il n'y a pas de nombre précis. Pourquoi? Parce que le sihr qu'on donne, il est possible qu'il soit grand, comme il est possible qu'il soit petit. D'accord? Et il est possible qu'il soit petit et qu'il a une grande influence sur la personne, et il est possible qu'il soit grand et qu'il a une petite influence. Donc chacun, ça va, c'est selon les faits. D'accord? Vous avez compris, Inch'Allah? Y a-t-il une particularité dans la tenue, dit Dars, dans la tenue vestimentaire du raqi, homme ou femme? Si tu vois un raqi en short, c'est bizarre. Hein. Si tu vois un raqi en short, alors là, il est bizarre. Là. Il veut peut-être montrer ses jambes, ou là, je ne sais pas. Hein, ou une femme. Non, la femme, elle n'a pas une tenue particulière. L'homme, il n'a pas une tenue particulière. Tenue islamique. Il faut qu'il ait une tenue islamique. Amma un raqi qui a vraiment des habits qui ne sont pas, hein, qui n'ostrent pas la aura, etc. Là, c'est grave. Ou la femme, c'est pareil. La femme, par exemple, elle ne va pas venir avec les cheveux découverts. Elle va dire, attends, mon frère. Je lui ai dit, mon frère. Ou ma soeur, je vais te faire. Ma soeur, encore, bon, ça, c'est pas. Le mieux, c'est qu'elle mette un voile. Mais elle vient et dit, mon frère, et elle a les cheveux en couette, etc. Je vais te faire un ruqya. Bon, non, c'est pas normal. Hein? Qu'elle mette un hijab. Peut-être que c'est elle qui a besoin d'une ruqya. Hein? Peut-on pratiquer une ruqya sur quelqu'un qui ne prie pas, mais qui croit en Allah et le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam? S'il croit en Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il fasse la prière. Alors conseillez-lui de faire la prière. On nous dit que c'est le waqt de la salat. Est-ce que vous voulez que je continue à répondre? Non, c'est vous qui... Non, on fait la salat. Ammar, il va me... Hein? Il est où Ammar? C'est lui qui va faire le cours. Après. Hein? Bon, déjà, on fait salat. Hein? Inch'Allah, on fait salat. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On répond, ba'at, c'est ça, juste ça. On finit, Inch'Allah, et je vais répondre, Inch'Allah, rapidement. Alors, peut-on pratiquer la prière, la ruqya sur quelqu'un qui ne prie pas, mais qui croit en Allah et en Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement, après, dit barakallahu fikoum, wa jazakumullahu khairan, ou anti barakallahu, wa jazakallahu khairan, ou jazakillahu khairan. Alors, faire la ruqya sur une personne qui ne fait pas la prière. Faut savoir que celui qui ne fait pas la prière, c'est très difficile de lui donner un symptôme. Pourquoi? Parce que s'il ne fait pas la prière, il est dans un grand péché. D'accord? Et s'il n'est pas, il y a certains savants qui ont dit qu'il n'était pas musulman celui qui ne fait pas la prière. D'accord? Alors, c'est très difficile après de quoi? De donner un diagnostic ou de le quoi? De le alij. Maintenant, est-ce que la ruqya, elle est permise sur quelqu'un qui ne fait pas la prière? Elle est permise sur un kafir. La ruqya, elle est permise sur un kafir. Abu Sa'id al-Khudri, hein, lorsqu'il a fait la ruqya, il l'a fait sur qui? Il l'a fait sur un chef de tribu qui était, les ulama ont dit que c'était un kafir, un mushrik. D'accord? Quand il s'est fait piquer par un scorpion, ils ont dit, les savants, que c'était un kafir ou un mushrik. Donc elle est autorisée, c'est autorisé de le faire. Si c'est minbab al-da'wa, si ça peut être aussi une porte pour la da'wa, et pour que la personne revienne à l'islam, ça aussi c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose. Inch'Allah, il lui dit, regarde, Allah, il t'a éprouvé avec ça. Maintenant, reviens à Allah. Repentis-toi. Tu vois bien que ce que l'effet du Coran, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait l'effet du Coran sur ton sihr ou sur ta possession. Normalement, ça doit être un miracle pour toi. Et ça doit être une chose qui doit te faire revenir à Allah. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, l'utiliser pour la da'wah, c'est-à-dire pour le prêcher, la baisse, Inch'Allah, comme disent les savants. Inch'Allah, j'arrête sur cette question-là et je réponds aux autres questions, si on me permet, juste après. Et après, Inch'Allah, même si Inch'Allah, ta'ala, barakallahu fikoum. Série de questions, et après on fait salat. Hein? Alors, tout à l'heure, j'ai dit, pour le sihr, comment qu'on peut le reconnaître? On peut le reconnaître, yani le sihr extérieur, Allah, il peut nous le montrer. Mais Allah, il peut te le montrer où aussi? En rêve. D'accord? Allah aussi, il peut te le montrer en rêve. Et tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il te montre où est-ce qu'il était. En rêve.
D'accord, vous avez compris, Inch'Allah?
Ah oui, s'il est dans la bouche d'un mort, il y a Ikhwan, il demande Allah subhanahu wa ta'ala, demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'aime. Voilà. Et qu'il ne fait pas comme certains ils ont dit, tu prends de l'eau marquée et tu le jettes dans la tombe. C'est quoi ça? D'accord? Alors, l'autre question qu'on nous pose, Bismillahirrahmanirrahim, alors je vais essayer de dire en arabe, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-insan al-mashhur, hal lahu ajr ila sabr? وهل يجوز الدعاء على الذي سحره وأن يعاديه؟ Alors, المسحور, la personne qui est مسحور. La personne qui est مسحور. Il demande, il dit, est-ce qu'il a une récompense s'il patiente? Et نعم, il a une patiente. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, même une épine qui t'a piqué dans le pied et que cette douleur-là, elle t'a fait mal et que tu as patienté, c'est quoi? C'est un khayr. C'est un bienfait pour toi. Donc, bien sûr que tu as un ajr, c'est-à-dire une récompense dans ta patience. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah, il donne une récompense sans limite pour quelqu'un qui patiente, face aux épreuves. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr qu'il va te donner un ajr si tu patientes. Ensuite, il dit, هل يجوز الدعاء على الذي سحره؟ نعم يجوز. Pour dire يجوز, يجوز. C'est-à-dire, est-ce qu'il est autorisé de faire une invocation contre celui qui t'a ensorcelé? Oui, il est autorisé de faire ça. Mais moi, ce que je conseille, c'est étant donné que tu es opprimé, ils t'ont fait un dhulm, une injustice. Moi, je te conseille, avec le hadith, je te conseille de bien méditer sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, da'watul madloum laysa baynahu wa baynallahi hijab. La da'wa du madloum, la da'wa de l'opprimé, l'invocation de l'opprimé, il n'y a pas entre la personne et Allah un voile. Vous avez compris? Ça veut dire que s'il va faire da'a et il va demander qu'Allah le guérisse, il va le guérir ou il va pas le guérir? Il va le guérir, puisqu'il n'y a pas de hijab. عندي ولد عمره سبع سنوات دائما يرى في المنام أنه أمام مسجد ويرى أن له لحية كبيرة وسوداء ويرى إيش يرى النحل في المنام. Si j'ai bien compris, alors j'ai un enfant qui a 7 ans et toujours il voit quoi? Il voit en face de la mosquée. Annahu, il voit qu'il est en face de la mosquée et il voit qu'il a une barbe. Anna lahu lihya kabira. Il voit qu'il a une grande barbe. Masha'Allah. Il voit qu'il a une grande barbe noire. Wa yara an-nahl. Je crois que c'est ça qu'il dit. Wa yara an-nahl fil manam. Et il voit beaucoup d'abeilles. Alors, moi, je ne traduis pas les rêves. Mais le lihya, je sais que c'est une bonne chose. J'ai lu un peu la traduction des rêves. Il y en a qui disent que c'est la sagesse, la lihya. Il y en a qui disent c'est la taqwa, etc., etc. Donc, s'il se voit dans une mosquée, amam masjid, devant une mosquée. Moi, je ne traduis pas les rêves, mais Inch'Allah, sallallahu alayhi wa jal, an yaj'ala hadha al-walad imaman. S'il était devant une mosquée, Inch'Allah, que s'il sera devant une mosquée, haqiqatan. Inch'Allah, qu'il deviendra un imam. Wallahu a'lam. Amma an-nahl, je ne sais pas. Si les nahl, les abeilles, qui étaient autour de lui, dans ce manam, mais je sais que le nahl aussi c'est quelque chose, Inch'Allah, de bien. Fi hadd al-sahir, hal yustatab qabla al-qatl? Ikhtalafa fihi al-ulama, on l'a dit. Est-ce que le sahir, on lui demande de se repentir avant de le condamner à mort? Ça, les ulama, ils ont ikhtalaf. On a dit qu'ils ont divergé. Il y en a qui le tuent directement. C'est ça, rajah. Al-sahir? Khalas? Après la salat. S'il y en a une pile là, wa sahbihi, wa man tabi'a huda ila yawm al-din, amma ba'd. Hudu. Un petit peu de silence, inshaAllah. Yaqwan, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, Iyakum wa hijat al-aswaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Iyakum وهشات الأسواق ça veut dire je vous mets en garde contre les bruits qu'il y a dans les souks, c'est-à-dire dans les marchés. Une mosquée, c'est Baytullah. La mosquée, c'est Baytullah. Il faut éviter de faire trop de bruit dedans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Iyakum wa hishat al-aswaq. Ay uhadhirukum wa hishat al-aswaq. Je vous mets en garde contre les bruits, hein, inshallah ta'ala. Les bruits de marché, un profond de marché. Alors, on revient sur les questions, inshallah. Inch'Allah, ça va être rapide. Alors, une sœur était mariée et n'a pas eu d'enfant pendant 8 ans. Les médecins ne remarquent rien d'anormal. Puis, elle s'est mariée durant 5 ans. Elle a refait des examens, rien d'anormal. Elle a très mal aux ovaires pendant ses règles. Elle a très mal quand? Où? Pendant ses règles. Et sa cuisse droite est presque paralysée pendant ses règles. Est-il possible que cela est dû à un sihr? Alors, Inch'Allah, cette sœur-là, si elle a bien, Inch'Allah, on va arrêter un peu les questions. Là, à partir du moment, on n'accepte plus les questions parce que je laisse le temps à notre frère Ammar et moi aussi j'ai envie de l'écouter. Hein. Moi aussi, c'est mon frère, j'ai envie de l'écouter. Voyez. Alors, cette sœur-là, celle qui est paralysée au moment de ses menstrues, alors moi, ce que je pense, wallahu a'lam, c'est que déjà, si elle a mal au ventre, si elle rajoute ça avec le mal de ventre, c'est qu'il est possible qu'elle l'a mangé. Elle est possible qu'elle a mangé le sihr et que le membre paralysé, j'ai oublié de le citer, le membre paralysé dans le corps, que ce soit le bras et souvent les cuisses et souvent même le genou, hein, ça c'est un des signes que le djinn est rentré dans le corps. Alors cette sœur, elle est dans deux cas. Wallahu a'lam, si elle n'a rien trouvé, elle a fait toutes les analyses, on a dit que c'était hors médical. Alors, cette sœur, ce que je la conseille, c'est de faire dua, premièrement, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le montre si elle a quelque chose. Deuxièmement, qu'elle passe des esbab. C'est-à-dire, comme on a dit, elle boit de l'eau, etc., ou elle se lave, ou alors elle lit le Coran. Elle lit Ayat al-Kursi avec la niya de la Ruqya, ou elle lit al-Fatiha. Inch'Allah ta'ala, elle verra en posant la main dans l'endroit où elle a mal. Et Inch'Allah ta'ala, elle verra s'il y a une manifestation à ce moment-là de la chose. Moi, ce que je pense, Allah a'lam, c'est soit les douleurs qui sont dues aux règles, c'est comme est venu dans le hadith, rakzatul min ash-shaytan, hein, que le diable qui est en elle, qu'il est possible qu'elle ait un diable, un djinn, et qui frappe dans ses ovaires pour faire qu'elle ait des enfants. D'accord? Et elle verra que c'est du sang. Du sang mélangé avec des monstrues, qui va sortir. Pourquoi? Parce que ce djinn-là est soit amoureux, alors si elle sent une présence en elle, ou des voix, elle entend des voix, etc., il est possible qu'elle soit touchée donc par un djinn. Elle est possible. Alors, le membre, comme j'ai dit, le membre, qu'il soit le bras ou qu'il soit la jambe, souvent, ça c'est quoi? C'est un djinn qui rentre. Elle verra qu'au moment, si elle lit le Coran, si elle lit Ayat al-Kursi, elle met la main dessus, si elle voit que sa jambe se met à trembler, hein, ça, il a des fortes possibilités que quoi? Qu'elle a un djinn. Maintenant, comme on a dit, djinn et sihr, souvent c'est lié, pourquoi? Parce qu'il y a le symptôme de quoi? Il y a les symptômes de sihr, c'est-à-dire dans le djinn, hein, le djinn, comme il est souvent accompagné de quoi? D'un djinn, le sihr, comme il est souvent accompagné d'un djinn, et bien tu verras beaucoup dans ces gens-là, qu'ils ont quoi? Ils ont les symptômes que j'ai cités. Les douleurs à la nuque, hein, le mal en bas du dos, au niveau de la ceinture, et les fortes migraines. Mais ça, moi ce que je conseille à cette sœur-là, c'est qu'elle elle fasse un examen d'elle-même en lisant le Coran. Et qu'elle n'ait pas peur. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. Il ne faut pas avoir peur de Sahara, etc. Hein? Et tu lis Ayat al-Kursi, ils se sauvent. Tu lis Ayat al-Kursi, ils se sauvent. Il ne faut pas avoir peur. Ils n'ont aucun pouvoir. Donc moi ce que je conseille à cette sœur-là, c'est de lire, hein, en posant sa main dans sa jambe, Inch'Allah ta'ala, en lisant Ayat al-Kursi, hein, elle va voir si elle a quelque chose ou pas. Et puis après, Inch'Allah, comme on a dit, s'il y a une manifestation, etc., on a parlé dans la muhadara,
qu'est-ce qu'il fallait faire, la ruqya et les shurut, c'est-à-dire la ruqya et ses conditions. Mais il y a une possibilité. Là, ce que je vois, les symptômes que je lis là, il y a une forte possibilité qu'elle est touchée par un djinn minimum. Ça, c'est le minimum. Le sihr, il est possible qu'il est derrière. Si elle a mal au ventre, ou alors il est extérieur, comme on l'a dit. Hein? S'il n'y a pas de douleur au ventre, il est extérieur. Et donc le djinn, il est là pour faire le boulot, pour le casser, hein, ses œufs, c'est-à-dire dans ses oreilles. Ensuite, il dit, est-il permis à la femme de se faire ruqya toute seule? Mais ouais, c'est ce qu'on a conseillé. Ça, c'est ce qu'on conseille. Dans la muhadara, c'est ce qu'on a conseillé. Hein, dans la conférence, c'est ce qu'on conseille. Et si oui, n'est-il pas mieux que quelqu'un lui fait par à qui a l'habitude de ruqya? N'est-il pas mieux que quoi? Que quelqu'un, hein, lui fasse, hein, parce qu'elle a écrit lui fasse, c'est comme, face à face. Alors que le face, c'est deux S. Mais allez, hein, parce que j'ai pas compris. Quelqu'un lui fasse qui a l'habitude. Moi, ce que j'ai conseillé dans la conférence, c'est quoi? Hein, de faire tout seul. Wallah, et c'est la meilleure. Moi, je te conseille de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est qawi. Allah, il est karim. Le prophète, alayhi salatu wa salam, un jour, il est venu. Il a pris, il a vu une femme. Avec quoi? Avec un enfant. Et il a dit au compagnon, et il dit, est-ce que cette femme-là, elle peut prendre son enfant et le jeter dans le feu? Il a dit ça au compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, non, ya Rasulallah. Il a dit, Allahu arham. Allah, il est plus quoi? Il est plus clément que la femme ne l'est vers l'enfant. Alors toi, la personne qui est malade, ou la personne, yani, qui veut se faire ruqya, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus miséricordieux, il a plus de rahma que tes parents l'ont envers toi. Est-ce qu'il y a une plus grande rahma entre deux personnes, hein, qui serait la mère et le fils? Est-ce qu'il y a une plus grande rahma que ça? Il n'y a pas. Vous voyez les femmes, les pauvres qui ont des enfants, vous voyez, même si son fils est le pire des bandits, elle est là, elle l'aime. Oh, c'est faux. Elle aime, elle est attachée à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné cet exemple-là pour dire quoi? Pour dire que Allah, il a plus de rahma. Donc moi, ce que je conseille à cette personne-là, c'est qu'elle demande à Allah Jalla wa Ala par ses plus beaux noms, elle lui demande, ya Allah, guéris-moi, montre-moi si j'ai quelque chose, et Allah il va te le montrer. Tawakkalu ala Allah in kuntum, mu'minin. Remettez-vous en Allah, ainsi vous êtes des croyants. Parce que beaucoup de maris, ils viennent, ah oui, mais est-ce que je peux aller voir quelqu'un qui me fait ruqya, etc. Moi, ce que je conseille, et c'est ça le message que je veux faire passer, c'est que, tawakkal ala Allah. Et wallah, que la meilleure des ruqya, c'est celle que tu te fais. Toi-même, tu vas voir les effets directs. Je vous ai dit, je répète encore cet exemple-là. Il y avait une personne qui était malade, et on pouvait rien faire. On lisait des heures et des heures et des heures, rien du tout. Et elle prenait le Coran, elle lisait le Fatiha, ça commençait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la meilleure des ruqya. Et qu'on se fait soi-même. Concernant les enfants, peuvent-ils être touchés par ces mots-là? Si oui, à quelle mesure? Et le remède sont-ils les mêmes? Alors oui, pour les laxatifs, il faut faire attention. J'ai dit, il faut prendre ça avec des précautions. Laxatifs, déjà, tu vas mettre une dose. Bon, mais je vous dis tout de suite. Par la grâce d'Allah, min rahmatillah ala khalqihi, parmi la miséricorde d'Allah, c'est que très rarement sont touchés les enfants. Les enfants, ils ne sont pas touchés par ce genre de choses. Ça, c'est... J'ai jamais vu, moi, un enfant vraiment touché. Le seul que j'ai vu une fois, il avait 16 ans ou 17 ans. C'était pas pour un enfant, hein. C'est un adulte. Mais sinon, c'est très très rare qu'un enfant, il est touché. Il est touché par une ont fait manger ou par ce genre de choses. Le plus souvent, ils ne sont pas touchés les enfants. Alhamdulillah, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils peuvent être touchés par quoi? Ils peuvent être touchés par des djinns. D'accord? Par le toucher. Et le djinn, attention, c'est pas forcément le sihr. Ça, on a dit, djinn, sihr, ilm, c'est trois choses différentes. D'accord? Et inshallah, pourquoi pas la prochaine fois vous faire un dar sur les djinns et les shayatin, comme ils sont, hein, si ça intéresse des gens. Na'am, inshallah, faut savoir donc que les enfants ne sont pas touchés par ces choses-là, par la rahmat d'Allah. Mais par contre, ils peuvent être touchés par le djinn, par quoi? Et par le ilm. Beaucoup par le ilm. Et ça, le signe de ilm, etc., inshallah, ça demande du temps. Donc, l'enfant, tu lui fais ruqya, et tu lui dis les attaques, et tu lis les surahs, les trois dernières surahs, et tu fais comme ça en questionnant, et tu lis. Ou sinon, tu me dis, U'idhuka bi kalimatillahi tamma, min kulli shaytanin wa hamma, wa min kulli aynin lamma. Tu lui dis ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait ça, et ses enfants, ils étaient protégés. Ça, je crois que c'est. Ma sœur est partie en Afrique pour se soigner des gens au moins sept fois. Des gens sont venus, ont récité le Coran, mais en même temps, ils ont récité le Coran en même temps, d'accord? Mais chacun a récité une surah. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a écrit, du coup. Non, je ne sais pas si tu veux la lire, tu veux la. Allah. Du coup, on avait l'impression de rien comprendre. Attends, vas-y, dis-moi ça. Le Coran, hein, c'est ça. Et ensuite, il disait quoi? Il disait des mots, quoi. Et c'est inconnu, c'est ça qu'elle a dit. Lili. Donc, je vais le dire. Voilà. Vous avez compris pourquoi je vous ai donné ce signe-là. Regardez. Il dit, il récitait une surah du Coran, déjà en même temps. Bon, ça, on ne va pas en arracher dessus. Il y a une fatwa de Taqiyuddin al-Hilali sur les gens qui lisent le Coran en même temps, en groupe. Et je vous conseille de la lire. Et puis, lui, interdit cela. On avait l'impression de rien comprendre. Naam, ils ont lu le Coran, mais après il y avait des choses, quoi. Comme on l'a dit, des formules, des bruits, tout bizarre, hein. Ça c'est quoi? C'est un signe de quoi? De Sahel. Ou Sahel? Kafir. Voilà. Donc ils sont partis voir un Sahel. Et ça n'a rien changé pour ma sœur. Ont-ils bien fait? Ben non, ils sont pas bien fait. S'ils sont venus avec des paroles bizarres juste après, ça c'est quoi? C'est un dalil que c'est une preuve que c'est un Sahel. Et Sahel, Kafir. Et ça n'a rien changé. Eh ben oui, ça n'a rien changé. Parce qu'Allah a donné les Michiens. Les Sénégalais écrivent. Alors là, c'est pas moi, hein. Les Sénégalais écrivent du Coran dans une feuille. Et mettent dans une bouteille. Puis ils se lavent avec ça, en vérité. Pendant un moment. C'est pour l'école bien travailler. Ça n'existe pas, déjà. Hein. Et à mon avis, ils n'écrivent pas que le Coran. D'accord? Pour bien travailler, hein, ça, c'est pas. Il y a d'autres choses, hein. On leur demandera de faire deux A, hein, etc. Mais le Coran, etc., ça, c'est un amal qui n'est pas mashroua. C'est-à-dire que c'est un amal qui n'existe pas. Maintenant, si c'est que le Coran, yatabarrakuna bil Coran. Si c'est que le Coran, et qu'ils font ça que par la bénédiction du Coran, on leur dira que c'est pas une chose à faire. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ni les sahaba, ni les compagnons en fait. D'accord? Mais si c'est du Coran avec des autres écritures, c'est quoi? Pour bien travailler, c'est quoi? Parce qu'attention, le sihr, il peut être fait pour bien travailler à l'école. Il peut être fait pour quoi? Pour mal travailler à l'école. Il peut être utilisé pour le bien de la personne, entre guillemets, mais aussi pour le mal. Les gens jaloux de toi ont pour être aimés de tout le monde, ou par un travail. Alors moi je comprends pas ça. Les gens, j'avais de toi. Ou pour être aimé de tout le monde. Ou pour un travail. Quel ce que c'est autorisé. Ah voilà. Alors ouais, c'est pour, d'accord. Heureusement qu'il y a mes frères. C'est pour l'école, bien travailler. Les gens jaloux de toi, ou pour être aimé de tout le monde, ou pour un travail. Est-ce que ça c'est autorisé? Non, c'est pas autorisé ça. Ça c'est pas autorisé, et moi j'ai peur qu'il n'y a pas que du Coran. Moi je demande à cette personne qui vérifie que s'il n'y a que le Coran. Et même s'il n'y avait que le Coran, ça c'est pas autorisé. À Kulihal, c'est pas autorisé. Quel est le statut du musulman qui recourt aux sorciers, aux voyants, Sidi Moussa, n'importe quel Sidi, hein, Sidi Moussa, etc. Hein, est-ce que c'est un mouchérik? Est-ce un mouchérikin? Donc tu dis, est-ce que c'est un mouchérik? Mouchérikin, c'est le pluriel. Mouchérik, mouchérikoun. Hein, sinon, c'est
Est-ce que c'est un mouchrik? C'est-à-dire, est-ce que c'est un mouchrik? On a répondu de statut du savant, du musulman, hein, qui a recours aux sorciers, on a parlé 40 jours. Regarde, soit c'est 40 jours, si je lui pose une question et qu'il va chez lui, qui juste il visite, il va chez lui, hein, 40 jours, sa prière n'est pas acceptée, et s'il le croit, qu'est-ce qu'il a fait? Il mécroit en ce qu'il est descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la ruqya peut enlever le shur? Elle a écrit le shur. La personne a écrit le shur. À mon avis, c'est shur. Et si oui, est-ce que la femme peut le faire sur elle? Alors la ruqya peut enlever le shur. La ruqya, elle est faite aussi pour ça, pour se guérir. Allah a dit wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une guérison dans le Qur'an. Alors si tu parles de la lecture, ayna'am. Ça, c'est mashrou, c'est quelque chose de bien, et on a donné les conditions. D'accord? Et si oui, est-ce que la femme peut le faire toute seule sur elle, ou elle peut le faire sur elle? Na'am, elle peut le faire sur elle, et c'est la meilleure si elle le fait sur elle. Pour une personne, une autre question, pour une personne qui a eu le ruqya, mais ils n'ont pas changé, qui a fait la ruqya, je pense, mais qui n'ont pas changé, comment faire? Exemple. Contente devient énervée, veut pas faire la ruqya. Comment on voit que le plat est ensorcelé? C'est difficile de savoir si le plat est ensorcelé. Ça, c'est difficile parce que les Sahara, ils vont pas le manger. Souvent, ils mettent ça dans une bonne soupe. C'est pour ça qu'ils vomissent énormément la personne ou le café. Parce que le café, c'est noir. Tu peux mettre tout dans le noir. D'accord? Alors, souvent, c'est dans le café ou souvent, c'est, dans une nourriture, mais on peut pas le savoir. Des fois, ils le mettent comme des formes d'épices. Et c'est même, des fois, c'est même bon. Ils mettent le sif. Contente, devient énervé, ne veut pas faire la ruqya. Moi, j'ai conseillé, si après c'est un cas extrême, c'est bien de le ramener, comme on a dit, dans des pays musulmans. Hein? Mais pas dans des pays où il y a les gens qui font ce genre de sihr, qui font le sihr, c'est-à-dire qui pratiquent la sorcellerie. Ça, c'est pas une chose à faire. Alors qu'elle profite, cette personne-là, de trouver des gens qui pratiquent la sunna dans ce pays-là, en France, ou alors, où, on a dit, il y a un bon endroit, et franchement, je vous le conseille aussi, Inch'Allah, c'est celui qui... Ça, c'est vraiment les cas extrêmes, c'est le Yémen. Au Yémen, il y a un hôpital pour ça. Il y a des hôpitaux même pour ça. Et franchement, il y a des coins, ils sont vraiment bien faits. Ils sont, vraiment, ils soignent les personnes, ils ont un suivi, etc. Taïf, mon mari, toute la nuit... J'espère qu'il n'est pas là, ton mari. Mon mari, toute la nuit, il rêve. Hier soir, on s'est disputé à une grosse dispute. Et après, on s'est réconcilié. Allah, il arrange cette chose-là. Et là, il a rêvé qu'une femme le traînait, le frappait. Il rêve de mort, de choses noires, toutes les nuits, depuis qu'on s'est marié. Je rajoute qu'il fait des du'as, et il lit le Coran avant de s'endormir. Masha'Allah. Que doit-il faire? Car cela devient insupportable. As-Allah Azza wa Jalla an yashfir. As-Allah Azza wa Jalla an yashfir. Si une dua qui est acceptée à cette heure-ci que je vais faire, ou que nos frères, Inch'Allah, font, alors je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guérisse. J'insiste bien sur le fait qu'il rêve beaucoup, énormément, de choses horribles, car cela, depuis plusieurs temps, depuis que je suis marié avec lui, j'ai mal au ventre et aux ovaires, soit après Fajr, soit après Asr, et les douleurs sont terribles. Allahu a'lam. Qu'Allah te guérisse aussi, ma soeur. Qu'Allah te guérisse. Alors, ton mari, j'ai oublié de citer ça comme symptôme parce que il y avait pas assez de temps. Un des symptômes, c'est les cauchemars. Des cauchemars, mais pas une fois de temps en temps. Des cauchemars répétitifs. D'accord? Eh ben, cette personne-là, malgré qu'elle lit le Coran, elle doit continuer, hein, parce que ça veut dire que si elle n'aurait pas le Coran et qu'elle ferait pas les du'as, ça sera encore pire. Ça sera encore pire. Ça sera plus pire. Alors, nous, qu'est-ce qu'on conseille à cette personne? Qu'elle continue le dua et qu'elle continue à lire le Coran. Et que, alhamdulillah, que vous êtes encore mariés. Alhamdulillah. En tout cas, il y a un signe qu'il est possible qu'il soit touché. Oui, par un sihr. Et, toi, ma sœur, pour ce qui s'agit des douleurs, etc., et qu'il est possible que tu n'as pas eu d'enfant, ça, c'est pareil, tu reviens sur la conférence, qu'est-ce qu'on a dit de faire. Alors, si c'est des douleurs de ventre, accompagnées des douleurs d'ovaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a mangé le sihr et qu'elle l'a nu. Alors qu'est-ce qu'elle doit utiliser quand elle a mangé le sihr? Des choses qui l'enlèvent, mais avant quoi? ma zamzam, d'accord, avec le Coran. Et je conseille cette sœur et ce mari de revenir sur la fatwa de Cheikh Ben Baz, c'est-à-dire de prendre cette feuille de cidre. C'est cette feuille de cidre que tu lui trouves dans tous les bazars ou dans tout, dans tous les bazars, dans là où on vend des plantes, hein. Et c'est les feuilles de jujubier, cette feuille de cidre que tu écrases et que tu lis, hein, les versets qu'on a donnés, inshallah, dans la conférence, ou alors que tu trouves la fatwa de Cheikh Ben Baz. Et vous faites ça, toi et ton mari, en buvant de cette eau et en vous lavant de cette eau, jusqu'à ce que vous guérissiez. Et c'est ce que je vous conseille. Et de profiter, si vous faites une umra ou un hajj, ou en allant dans un pays musulman, de quoi? De trouver quelqu'un qui pratique la ruqya, d'accord? Quelqu'un qui est dans la sunna, si vous les voulez la demander. Mais moi, je vous conseille de quoi? De ne pas la demander. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure des ruqya, et surtout que surtout pour entrer dans le hadith des 70 000 personnes. Alors encore, il reste deux ou trois questions. Quand une personne a des djinns en elle, que peut-on faire? On l'a dit, ça. Ah, on a dit, rien. Quand une personne s'apprête à dormir et qu'elle crie de douleur parce qu'on la frappe, que peut-on faire? Ça également. Quand elle s'apprête à dormir, on leur conseille de faire les afkar, c'est-à-dire les invocations de Noël. Vous connaissez quoi? Bismikallahumma wa ba'atu jambi wa bika arfa'u, hein, les du'a bismikallahumma amutu wa ahya, également la du'a Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, yani le qira'at du verset amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, les deux versets de quoi, les deux derniers versets de Baqara. Elle lit tout ça, inshallah il lui arrivera rien du tout, d'accord. Et elle fait les dhikr du matin et du soir, ça va calmer tout ça, inshallah. Une personne qui parle toute seule, c'est quoi? Une personne qui parle toute seule, si c'est pendant le noum, ça arrive. Si c'est pendant le sommeil, ça arrive qu'une personne elle parle toute seule, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est ensorcelée. Mais si tu rajoutes les symptômes que j'ai dit pendant la conférence, il est possible qu'elle est ensorcelée. Il est possible qu'elle est ensorcelée ou alors elle est touchée par un djinn. Quand une personne qui pleure en écoutant le Coran, si elle pleure en écoutant le Coran, ça il est possible que quoi? Alors il y a, voilà, qu'elle est touchée. Ou qu'elle a du rin. Ça aussi, c'est un signe. Elle a du rin. Et le rin, c'est autre chose, c'est pas le sihr. C'est-à-dire, elle a du mauvais œil. Ou alors, elle est ensorcelée, ou alors, elle a un djinn. Car, c'est avec la lecture du Coran que tu vois d'autres signes, et ça, on les a pas cités. Pourquoi? Parce que nous, on conseille directement de faire la ruqya, et après, on va voir qu'il y a des choses bizarres. D'accord? Et que les choses bizarres qui viennent, prouveront que la personne est malade. J'ai un gros souci avec ma prière. Je ne prie pas du tout, pourtant, j'en ai envie. Mais quelque chose me bloque. J'apprends ma science. Pourtant, je fais mes ablutions. Je connais ce qui sépare le croyant du mécréant, les mérites de la prière, les punitions. Que dois-je faire? J'en suis mal. Ben, c'est déjà bien, hein, que t'en es mal, hein, mashallah, que t'as remarqué que cette chose-là est mauvaise. Mais, s'il y a une chose qui t'en empêche, moi, ce que je te conseille, c'est que tu reviennes à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te lèves la nuit et que à un moment où personne te voit, tu lèves les bras, tu lèves les mains à Allah subhanahu wa ta'ala, à Allah, et tu lui demandes qu'il te guérisse et qu'il te raffermisse. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte les deux. Et surtout, avant tout ça, le fait que tu ne fais pas la prière, repentis-toi. Demande à Allah qu'il te pardonne. Car délaisser la prière, c'est très très grave. C'est un grand péché. Et comme je dis, c'est aussi... Certains savants, yarawna anna tarik as-salat kafir, celui qui délaisse la prière par paresse, certains savants voient quoi? Voient que c'est un kafir, tarik salat kafir. Donc, inshallah, ce que je te conseille, c'est de revenir à Allah. Parce que vous savez, ces soucis-là et ces problèmes-là, il y a Allah. Il y a Allah. Allah, c'est lui qui règle tous tes problèmes. Et souvent, quand tu recherches un intermédiaire, ou quand tu recherches, comme on a dit, la parole de Cheikh al-Islam, quand vous allez chercher des médecins, etc., il ne s'est pas remis à Allah. Et quand il ne se remet pas à Allah, eh ben, il continue à tomber malade, etc., lui arriver des problèmes. Mais Cheikh al-Islam, il dit, وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَلَوْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ بِأَوَّلِ مَرَّةِ. Et si il s'était remis à Allah la première fois, il aurait guéri ou il n'aurait pas guéri? Il aurait guéri, comme nous dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc, remets-toi en Allah en te repentissant de ces péchés-là. Et Inch'Allah, demande à Allah qu'il t'aide hein, en l'invoquant, demande à Allah de t'aider, car Allah a dit Fad'ouni astajib lakum. Allah a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Avez-vous encore des livres pour les femmes? Car trois d'entre elles n'ont pas eu de livres. Ça, c'est les gens qui s'occupent des livres, et à mon avis, ils vont les envoyer, hein, ils vont les passer par en dessous, je ne sais pas comment ils vont faire. Alors, on va le voir là tout de suite. Hop, ils passent en dessous, hein, du rideau. Donc, mashallah, ça, c'est une bonne technique pour avoir des livres. On peut demander en question. Et on avait dit que les questions, c'était pourquoi? C'est spécial pour Ruqya. Donc, voilà pour la Ruqya, et pour les questions. Je vous conseille de lire Recueil de fatwa de Al-Juraisi. Je vous conseille de lire ce livre-là. Recueil de fatwa de Al-Juraisi. Dedans, toute la Ruqya, etc., est bien expliquée. Il y a aussi Sorcellerie et percepte de sorcellerie, je ne sais plus si comment le titre, hein, et la règle juridique concernant cela, de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Dedans, vous verrez aussi la chose qu'on a dit là, de cette feuille de cidre, etc. Et je vous conseille aussi de lire Comment se débarrasser de la sorcellerie. Ça aussi, c'est un petit livre qui donne quoi? Qui donne un résumé sur cela. Il y a aussi Sarm al-Battar, le sabre tranchant de Abdel Salam al-Bari. Il est possible qu'il y ait certaines fautes dans ce livre, mais ce n'est pas des fautes, hein, qui vont, par exemple, c'est il juge un hadith qui est sahih alors qu'il est da'if ou des choses comme cela. D'accord? Inch'Allah, ce n'est pas des fautes graves. Et si quelqu'un en connaît plus que moi sur ce livre-là, moi j'avais lu ce livre-là, je n'ai pas trouvé qu'il y avait des choses graves, Allahu A'lam. Hein, en tout cas, il y a un shir qui est au Yémen, qui s'appelle le shir Mohamed al-Imam, qui disait que c'était un des meilleurs livres. Et dedans, tu retrouveras tous les symptômes qu'on a cités. D'accord? Tous les symptômes qu'on a cités aussi. Et il y a aussi un livre en arabe, si vous pouvez l'avoir. Hein, c'est Fath al-Mannan, bi kalam shir al-Islam an il-Jan. Hein, ça, Fath al-Mannan, c'est shir Mashhur Hassan, qui est un élève de Albani, qui a, joint toutes les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans ce livre sur le djinn. Et dedans, ça parle de Ruqya, Ruqya Shara'iyya. Mais le recueil de fatwa de Al-Juraisi, il est largement suffisant, inshallah ta'ala. Voilà pour les livres. Il y a des cassettes également. Inshallah, qui vont sortir ce barnamage, ce programme qui a été fait en Arabie Saoudite, qui s'appelle Innama Sana'u Kaidu Sahir. Hein, ils l'ont appelé Kaidu Sahir. Et ce barnamage-là, Inch'Allah, qui vont le mettre en sous-titré, c'est-à-dire qui vont expliquer toutes ces choses-là, Inch'Allah. Je demande à Allah qui facilite, hein, ces choses-là. Et voilà pour tout ce qui est fini cette question. Après, c'est la dernière. Alors, nous avons une question en arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Indi ibni la yuridi al-ruqya wa la yasma'u indama atakallamu ma'ahu. عملت له الوقاية فهو على حاله لا يريد أن يشرب الماء فادعو له جميع الله يهديه وبارك الله فيكم أسأل الله أن يهديه وأسأل الله أن يشفيه إن شاء الله إن شاء الله المحاضرة إن شاء الله يا سكيا دو سوفيزون pour cette réponse-là, inshallah ta'ala. Le wiqaya, vous continuez à lui faire le wiqaya, c'est-à-dire, moi je pense qu'elle dit le wiqaya, c'est-à-dire la protection, c'est ça. Elle lui lit les adhkar, etc. dessus, elle continue. Inshallah, tu les as mis à hada, tu as pris à la main, tu as mis à dhikr al-adhkar al-walida, allati hiya min al-tahsinat al-shara'iyya, li waladika, on asa Allah azza wa jal, an yaqiya al-muslimin, هذه الشروط وبارك الله فيكم وسمحوا لنا جميعا إذا أبقينا الوقت سينا طول علينا je demande aussi à Ammar qui m'excuse, hein, j'ai pris de son temps sinon il va me faire مستعد يا عمار il va prendre place inshallah بارك الله فيكم واستودعكم الله